Bonjour à tous, c'est-à-dire, on est venu à ce séminaire sur les intellectuels québécois. Je vous rappelle que vous êtes au CRILC, au Centre de recherche sur la littérature et la culture au Québec. Je suis Jonathan Duvernois, professeur ici au département des littératures. Dans le cycle des conférences, on reçoit aujourd'hui Jean-François Nadeau, que vous connaissez bien sûr. Jean-François, bon, rapidement, historien, qui était professeur à l'université, je pense que c'est Laurentienne à Sudbury. Était éditeur aussi, hein, notamment Lux maintenant. Ça s'appelle Lux, c'était Cobo Nadeau à l'époque,
ouais.
Je ne m'abuse. Jean-François le connaît aussi beaucoup pour son engagement au devoir. Il a été directeur des pages culturelles de 2003-2013 et depuis 2 ans, donc, directeur adjoint à l'information. On le connaît aussi beaucoup ces temps-ci par ses chroniques du lundi que plusieurs apprécient grandement. Hein, dont on parle beaucoup dans les réseaux sociaux aussi, lundi après-midi, lundi vers 10h, 11h. Ça sort beaucoup, les gens apprécient. Des chroniques extrêmement intéressantes qui témoignent aussi, je dirais, en prenant peut-être l'expression des années 30, là, des idées larges de Jean-François Nadeau, capable donc d'une perspective historique assez rare dans le contexte québécois, ce qui nous permet de discuter, de parler des réfugiés syriens tout en passant par Pierre Dansereau et André Laurendeau dans les années 30, de discuter aussi de la fierté québécoise, tout en parlant des dauphins de la Floride, représentés sur un char allégorique de la Saint-Jean-Baptiste 1969. Les étudiants comprendront s'ils l'ont lu, je l'espère, ce texte que j'adore tout particulièrement, nos dauphins. Donc, voilà, Jean-François, par ce travail, me semble bien représenter un intellectuel, ça va, il n'y a pas de doute. Mais la question demeure quand même, quels sont les chassés-croisés, quels sont les carrefours de l'intellectuel et du journaliste au Québec? Je vous rappelle que cette réflexion a été en quelque sorte suscitée par un texte que nous avons lu ensemble, un texte d'André Laurendeau. Bon, vous en souviendrez, André Laurendeau, qui écrit en 1964, je le cite, « Les sociétés ont besoin des intellectuels. Quand un divorce s'établit entre les deux, c'est une tragédie. Une société saine ne tente pas de réaliser sur le champ les lubies de ses idéologues. En règle générale, elle ne confie pas les leviers de commande à ceux qui règnent sur le monde de l'esprit. Mais elle les écoute avec respect. Même s'ils tiennent un langage difficile ou un langage étonnant, elle n'utilise pas systématiquement contre eux le rire ou l'anathème. Elle ne les parque pas dans un ghetto où ils se dessèchent ou s'exaspèrent, pardon. Elle ne les dévore pas non plus, car leur entreprise exige un certain silence. Entre l'intellectuel et les masses, il devrait exister des intermédiaires, notamment les journalistes, qui passent alors à peu de frais pour des intellectuels. Il ne faut pas confondre les genres et, sauf exception assez rare, chacun a intérêt à occuper son royaume plutôt que de conquérir celui de son voisin. » Donc, l'intellectuel et le journaliste comme intermédiaire. Voilà. Alors, je laisse Jean-François nous entretenir de ces sujets, après quoi vous aurez tout le temps pour les questions qui s'imposent. Et voilà. Alors, tu viens t'installer, Jean-François.
Laurendeau disait qu'on réussissait mieux nos paysans que nos intellectuels. Hein, probablement, vous avez vu ça comme texte. C'est un drôle de monsieur, Laurendeau, que j'ai étudié pas mal quand j'étais ici, d'ailleurs, comme étudiant, qui avait tout en lui, probablement, pour larguer une bonne partie du monde auquel il appartenait, chose qu'il s'est toujours refusé à faire. Pour lui, il était une sorte d'oie sauvage, migrante. Il fallait pas que le troupeau, le voilier qui était derrière lui, se décolle au risque de perdre tout le monde. Hein. Il s'arrangeait donc pour rester un peu en marche. Et en fait, il y a beaucoup aussi de mythes sur Laurendeau. Pendant très longtemps, on le présente comme une espèce d'anti-duplessiste, un intellectuel et tout. Et donc, jusqu'en 1956, quand même, le devoir soutient le duplessisme. Hein. Le devoir passe toujours pour un fervent. C'est celui qui a lutté contre Duplessis, la noirceur. Tout en réalité, c'est souvent un peu plus complexe. Rien qui est jamais tout noir, qui est jamais tout gris. L'intellectuel, là, je veux bien parler de l'intellectuel et tout, le titre de supposé de cette conférence, je sais plus ce que c'est d'ailleurs, mais ça ressemble un peu à ça, ce genre de titre qu'on donne très en amont du moment où on va la faire, et donc en réalité, c'est une question qui est assez simple à répondre, c'est ce que ça se peut, journaliste et intellectuel, la réponse, évidemment, c'est non. Hein? Il me semble, en tout cas, techniquement. Parce que, en principe, un intellectuel, c'est quelqu'un qui s'engage, selon la définition sartrienne, hein, il s'engage à partir de son champ de connaissances à lui, il s'engage au-delà, à à partir de sa propre notoriété dans des champs qu'il connaît pas. En principe, un journaliste, c'est tout le contraire de ça. Donc, ça arrive. À une certaine époque, ça a été autre chose, mais ça devient de plus en plus tout le contraire de ça. C'est un travail qui est largement technique, où les journaux sont rachetés les uns avec les autres en faveur d'entreprises financières. C'est vous, à l'université, on a l'impression que c'est un service public, les médias, que ça existe, puis que ça sert à donner de la couleur au monde, puis des échanges intellectuels et tout ça. Mais en pratique, ces choses sont appartiennent à l'entreprise privée, hein, et elles ont pour mandat, en tout cas dans nos sociétés, d'abord et avant tout, de générer du profit. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le devoir au carreau autant de problèmes, c'est en général assez peu de profit négatif à peu près chaque année. Mais donc essentiellement, c'est ça au départ. Hein? La vision idéalisée de tout ça, à laquelle les journalistes, d'ailleurs, entretiennent une sorte de mythologie très, très importante, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à des ordres corporatifs, où il y a une sorte de conseil de presse qui, techniquement, est un code d'honneur. En réalité, on a bien montré, par exemple, que quand M. Péado, avec ses journaux, a décidé qu'il ne se soumettait pas au conseil de presse, ça changeait absolument rien. C'est une sorte de code d'honneur. Si vous avez un blanc contre vous dans le conseil de presse, votre vie ne change pas le lendemain, ça change absolument rien. Une structure formelle qui est organisée là. Donc, c'est l'apparence d'un service public, mais dans le fond, c'est un service privé, hein, qui gère les besoins de bénéfices qui sont d'ordre soit financier ou symbolique. Hein. Par exemple, dans le cas de la famille Desmarais, pendant très très longtemps, il est évident que le bénéfice n'était pas d'ordre financier, c'était un bénéfice qui était symbolique. Prenez les affaires de Barber Corporation, la presse dans son ensemble, jusqu'à il y a peu de temps, ils étaient propriétaires d'un ensemble de journaux, la Tribune, le Nouvelliste, le Quotidien, la presse, bien sûr, le Soleil. Donc tous ces journaux-là étaient dans la propriété d'un même groupe. Ça ne comptait pas pour 1%, si je ne me souviens pas, des affaires de leur boîte. Donc c'est total, leur boîte, c'est les assurances, c'est la finance, c'est un capital symbolique, c'est un capital d'investissement dans un pouvoir politique, dans un pouvoir de représentation. C'est au-delà du capital, et c'est plutôt le capital en général maintenant qui est la grosse affaire. On le voit par exemple dans une boîte comme l'agence France Presse, qui est une très vieille entreprise qui fournit de l'information. À leur plus grand développement ces dernières années, l'agence France Presse, je me souviens plus du nom exact, là, je prends une note avec moi, je pourrais vous le retrouver si ça vous intéresse. Et depuis 2-3 ans, ça avec quoi ils font fortune, c'est essentiellement un truc qui est dans le domaine d'accompagnement. Ils appellent ça de l'information de loisir. Qu'est-ce que de l'information de loisir? C'est du soutien publicitaire. Donc, ils fournissent, par exemple, à Louis Vuitton, qui font des sacs, qui sont prêt à porter, prêt à copier en Chine, des parfums, des trucs comme ça, des entreprises qui font beaucoup de sous. On leur offre des nouvelles qui sont absolument sans conséquence, qui habillent un espace publicitaire. Donc c'est le contraire, hein. Auparavant, le New York Times écrivait, c'est toujours écrit dans le livre, c'est all the news that fits to print. Hein, c'est tout ce qu'on peut publier, donc au fond, on rentre la publicité. Maintenant, c'est le contraire, c'est qu'on met de la publicité, puis ben, on va mettre un peu de nouvelles autour pour amener ça. Pourquoi? Pour retenir l'attention de la personne qui est là, de sorte que on pourra lui vendre, on pourra vendre son cerveau d'une certaine façon à la marque qui est là sur place. Donc, c'est ça qui est le plus en expansion dans une des plus grandes boîtes dédiées à la nouvelle historiquement, qui est l'Agence France-Presse. C'est quand même intéressant. Alors, moi, je suis arrivé au journalisme, complètement par hasard. Je suis pas du tout de... Mais j'ai toujours fait ça, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Quand j'étais petit, là, en 5e ou 6e année, j'avais fondé un journal avec des amis, ça s'appelait le Fouineur. Puis j'ai toujours eu le nez là-dedans, qui est peut-être désespérément long en partie à cause de ça. Donc, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Mais pas le journalisme en tant que tel, davantage l'écriture. Alors, moi, j'étudie en histoire, en sciences politiques, en littérature, ici, en bonne partie. Et c'est la chose écrite qui m'intéressait, c'est ce rapport-là à l'écriture. Moi, je suis pas membre des associations. J'occupe un titre qui, en principe, me catégorise très journaliste. Mais j'ai jamais été membre une seule année dans ma vie d'une association professionnelle de journalistes. Ce qui fait que jamais je vais gagner un prix. Parce que c'est un prix qui est remis entre journalistes. Hein. Les prix journalistes sont dédiés à des journalistes, c'est fait par des journalistes, donc c'est un monde en soi. C'est un monde assez intéressant, le journalisme. C'est la même chose, au fond, qu'ici, vous êtes tous des candidats potentiels à faire ça d'une façon ou d'une autre. Alors, vous êtes tous blancs. Hein. Vos parents sont presque tous probablement déjà à l'université. Vous avez tous des revenus médias qui sont à peu près pareils. Vous avez tous maintenant des préoccupations universitaires. Et après ça, on s'étonne que dans les médias, on parle surtout d'université, surtout de la classe moyenne. C'est la même chose à la télé, ou en général, ce qu'on vous montre à la télé ou ce qu'on vous montre dans les journaux, c'est pas le cœur de la réalité sociale. Hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a un film que j'aime beaucoup de Fellini, mais j'arrive jamais à me rappeler lequel c'est, le titre, en tout cas, dans lequel il y a une équipe de tournage japonais qui se présente avec lui. C'est un fou documentaire. On dit quelque chose, ça, non? Et là, il y a une équipe de tournage japonais qui arrive dans sur un plateau et se finit, puis ça se finit. Ah, au fait, dans une grande formidable. Avec une espèce de pudeur toute japonaise. Puis là, ils osent une question. Tu sais, c'est fini sur les grosses fesses qui sait, le personnage avec des têtes pas possibles, mais c'est un truc absolument éclaté et éclatant. Puis je dis, mais où vous prenez toutes ces têtes? C'est fini, mais. Et la scène d'après, on les voit, ils se promènent dans le métro, à Rome. Et la caméra fait juste se promener. Et tout est là. Dans la vraie vie, tous les personnages de Fellini sont là. Ils nous apparaissent extraordinaires parce que la télé ou le cinéma nous ont habitués à des têtes qui ne le sont pas. C'est la même chose au point de vue intellectuel. Ce qu'on nous présente comme étant la fine fleur de la pensée appartient à un corps assez défini de l'espace public. Voyez-vous ce que je parallèle avec ça? Bon. Alors, dans ce cadre-là, il faut se méfier. Hein. Comme dans les journaux, jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Pas beaucoup de femmes.
C'est juste pour voir si vous suiviez. Hein. Bon.
C'est ça, il y a beaucoup plus de femmes maintenant. Probablement parce qu'elles coûtent moins cher, j'imagine. Mais, donc, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il n'y a presque jamais de gens qui appartiennent à des communautés culturelles qui sont visibles. C'est tout nouveau, ça. Ça, c'est Dany Laferrière qui est le premier lecteur de nouvelles à TQS noir. Ça fait pas 1000 ans de ça. Des noirs, il y en a depuis longtemps ici. Là. C'est pas possible qu'on n'en voit pas jamais. Quand les gens disent dans les téléromans, par exemple, là, vous imposez des quotas. Ben non, vous imposez rien du tout. La réalité est comme ça, c'est ça. Que vous n'êtes pas habitué de voir la réalité, comment elle se présente normalement. Dans les salles de l'action, ça paraît encore beaucoup, ça, quand même. Ça a une incidence. C'est pas pour rien qu'on entend presque jamais parler de l'affaire ouvrière. Les gens qui travaillent de leur main manuellement, là, ils comptent pour une bonne partie du travail des gens qui se trouvent autour de nous. Vous en entendez presque jamais parler, sauf dans des moments où il y a des scandales. Pourquoi? C'est pas un complot, c'est une structure qui fait en sorte que ça soit possible. C'est-à-dire que moi, qui ai eu les mains blanches toute ma vie à gérer les stylos d'une main puis d'une autre main, ou à peu près, bon, dans mon cas, c'est pas tout à fait vrai, mais en général, c'est plutôt ça. Ben, évidemment, mes préoccupations, mes sensibilités sont plus de l'ordre de l'université, sont plus de l'ordre du terrain, de gens qui me ressemblent. Je me retrouve avec des gens qui me ressemblent. Donc, évidemment, les histoires que j'entends sont celles. Et je finis par concevoir que le monde entier ressemble à ça. Alors que c'est pas vrai. Et donc, la prétention de tout ça finit par imposer l'image globale que le monde, c'est ça. Et le journaliste devient très, très souvent, une forme de... Vous répétez pas ça à personne, mes collègues. Et donc, le journaliste devient très, très souvent une forme de super fonctionnaire, gestionnaire, hein, ou le où on entend essentiellement des discussions qui ressemblent à celles de un peu plus éclairées peut-être, mais justement de matchs de hockey en disant « Mais M. Trudeau doit absolument venir son cabinet pour nous dire ceci et ça. Mais par contre, le 11% que... Non, 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 on avait... Non, c'est plutôt 12. Mais attendez, les 10% d'immigrés syriens qui... Mais dans d'autres pays, c'était 13. Et là, ils sont vachement intelligents. Ils finissent par perdre le cœur de la question première, hein, qui est celle du cœur, en l'occurrence. Pourquoi il faudrait faire venir des gens ici? Hein, ou pas. Mais donc, on évacue souvent dans un discours très, très technique, très éclairé, une forme de sécheresse intellectuelle, me semble-t-il, qui est le propre du genre, en bonne partie. Alors, moi, ça c'est... Je vous ai dit que je suis arrivé à... Peut-être vous raconter un peu, peut-être vous raconter un peu, en fait, ce qui, moi, m'intéressait et comment je suis arrivé, hein, Et moi, la chose écrite m'intéressait pour une question de village, essentiellement. Je viens d'un petit village des cantons de l'Est, qui s'appelle Cochet, qui est à 30 minutes de Sherbrooke, à peu près, entre Lac-Mégantic, disons, et Sherbrooke, qui est un tout petit village. Et c'est petit, un village, quand vous grandissez. Même quand vous êtes petit, ça devient vite, assez vite petit, très petit. Hein. Comment faire pour en sortir? Je m'étais découvert une sorte de monde à l'intérieur même du village. J'avais l'impression que tout était contenu dans ce village. Effectivement, avec le temps, en y regardant bien, on peut voyager beaucoup dans très peu d'espace. Hein. La Banque de Montréal, qui avait sa succursale, a des colonnes néoclassiques. Donc on peut très bien se retrouver en Grèce avec un peu d'imagination facilement. La filature de laine en bas. Le premier propriétaire est mort coulé sur le Titanic. On peut voyager très très loin en regardant la filature de il y avait une ancienne usine d'engrais fait à partir d'eau d'animaux. On avait retrouvé une immense mâchoire de baleine qui s'est retrouvée au musée de Sinulaire de Sherbrooke, pas très loin. On peut très bien s'aventurer dans la lecture de Moby Dick en retrouvant une mâchoire de baleine dans son village. Donc on peut voyager beaucoup. Mais éventuellement, il faut augmenter les cercles. Moi, essentiellement, les questions que je me suis posées dans ma vie, c'est des questions de village. Ma grand-mère avait une maison avec mon grand-père. Ma grand-mère était assez déterminante dans la côte principale du village, donc à mi-chemin entre la très basse ville et la très haute ville. La très basse ville, près de la voie ferrée, près des usines de Zerbonne, était curieusement habitée que par des Canadiens français. Et la haute ville, tout en haut, avec des maisons plutôt victoriennes, avec un ancien régiment de cavalerie qui avait été là au 19e siècle. Et ce n'était que des anglophones, par hasard, me direz-vous, mais c'est comme ça. Et donc, les trois principaux livres que j'ai faits, dont ma thèse de Doc, c'est essentiellement des réponses de la cuisine de chez ma grand-mère. Hein, c'est tout simple. Donc, à l'étage, ma grand-mère, quand on s'énervait, elle disait toujours, si vous arrêtez pas, je vais vous envoyer à Peterborough. Je savais pas, moi, ce que c'était Pitawawa, mais je savais que c'était pas pour, hein. Je savais que c'était un peu menaçant. J'ai compris, donc, en étudiant, en travaillant à l'Université Laurentienne, en faisant cette longue route de 8 heures, pour se rendre là-bas, qu'on passait dans un camp militaire à Pitawawa, et que c'est là qu'on avait interné pendant la guerre mondiale les opposants politiques. Donc, les nazis, les fascistoïdes, toute personne, qu'on pensait pouvoir représenter un danger d'une façon ou d'une autre pour la pensée pendant la guerre mondiale. Donc, ma grand-mère menait sur un livre qui s'est appelé Abonné Arcan, plus tard, qui est une fausse biographie, qui est, tous mes livres ressemblent à des fausses biographies, où c'est essentiellement la pensée d'une époque à travers un individu, parce que c'est plus commode pour les commercialiser, disons. Et puis, au sous-sol, mon grand-père avait un bureau, mon grand-père lisait beaucoup, mais il avait cette curieuse habitude que j'ai jamais trop comprise, puis il est plus là pour l'expliquer, où il s'est débarrassé à mesure des livres qu'il avait lus. Mais il lisait quand même beaucoup. Et comme ma grand-mère, il l'avait conservé, il conservait toujours à sa mort, c'est moi qui en ai hérité, une longue série de livres verts, là, sur un rayonnage en toile, c'était l'histoire de la province de Québec de Robert Lomilly, en 41 tomes. Dans lequel, dans les premiers tomes, on trouvait des cartons, notamment des cartes de visite d'André Laurendeau, avec qui il avait été assez lié. Je me disais, qui est le fou qui qui a pris 41 tours pour écrire une histoire qui va de 1867 à 1945. Et elle dit, bon, c'est un peu exagéré. Donc, si jamais vous avez un projet comme ça, vous passez par la fête, c'est pas une idée. Hein, c'est pas du tout vendeur. Donc ça, c'était ma thèse. C'est la question du sous-sol, si vous voulez. Et l'autre question à laquelle je réponds se passe de l'autre côté de la rue, où un jour, mon oncle, avec des yeux très 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 bleus, un homme très intelligent, revient à la maison en disant « Pierre Bourgault est en train de prendre le thé sur la pelouse avec sa mère. » J'ai dit « Mais qui c'est que vous allez faire quand monsieur prenez le thé sur sa pelouse ?» Sur la pelouse, parce que Pierre Bourgault venait du même village, il habitait de l'autre côté de la rue, enfin chez mes parents. Et donc mon oncle voyant avait quelque chose, il dit « Moi je suis petit, tout petit, mais ça me reste hein, pour que mon oncle soit impressionné par une question comme celle-là. » Plus tard je l'ai connu et éventuellement je finis par répondre à cette question-là. Trois questions de base hein, pour les livres qui sont parus. Et la réponse se trouve dans la chambre de mon oncle, qui est à l'étage, qui est à Rive, c'est un peu fumeux de poète. C'est le plus jeune frère de ma mère, mais en fait, c'est plutôt mon frère à moi, parce que la différence d'âge entre ma mère et lui et moi, et donc, est à mon avantage. Et donc, il joue la guitare, musique classique, du jazz, il me laisse entrer dans son antre, genre de jeune homme, et que je regarde discrètement dans un coin et tout. Et il a, contre le mur, il y a une pile de magazines. Ce sont des magazines de... ça existe encore, les gars, c'est ça, dépendamment de leur milieu, mais de trucs automobiles. Motocrane, des trucs fantasmes avec des moteurs soufflés. Puis, alors là, avez-vous déjà regardé ça, ces trucs-là, pendant que je prends ma gorgée d'eau, non? Il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans, pour l'historien ou pour la littérature, ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, un des trucs fascinants, c'est les courses d'accélération de voiture, là, vous faites, je sais pas, un quart de mille ou un mille en, je sais pas, deux ou trois secondes, hein. Ça se passe dans un désert, mais il y a absolument rien, donc, il y a rien, là, c'est une course d'accélération de voiture, et là, mais dans des magazines comme ça, cet événement qui dure deux secondes, on vous en parle pendant 15 pages. Oui, un tel truc à papier négatif, messieurs, déplacé. Ce matin-là, il avait mangé tel truc, donc peut-être le poids s'était déplacé de la voiture, et ça. Alors je me disais, donc, cet événement qui dure deux secondes ou trois secondes, je peux l'étirer. Hein? Donc, on peut jouer avec le temps. On peut le comprimer dans la vérité ou on peut le découper. On peut réussir à faire du temps à un objet d'étude, en quelque sorte. Hein? Ça, c'est du magazine automobile, c'est ça. Hein? Peut-être pas tous, mais je dis pas ça souvent. Mais à ce moment-là, quand j'étais petit, peu à peu, c'est cette idée-là qui a germé en moi. Et ce qui m'intéressait dans le texte, c'était ça, c'était l'idée du temps. Et c'est ce qui m'intéressait aussi dans la photographie. Je suis très, très intéressé par la photographie. Moi, je n'en parle pas beaucoup, mais j'ai une bonne partie de ma vie passée dans la photo aussi. Donc, cette idée qu'on peut écrire aussi avec la lumière, le temps qu'un 60e de seconde ou un 125e de seconde peut être étiré dans un musée presque pour l'éternité. T'imagines l'affaire? Dans la carrière d'un grand photographe, ça dure moins d'une minute d'habitude. C'est-à-dire que si vous prenez le temps de son action réelle, un 125e de seconde, un 60e ici, les très très grands photographes, disons Cartier-Bresson, vous allez vous rendre à 2 minutes peut-être. Hein? C'est terrible, hein? Son temps réel d'inscription du temps, c'est-à-dire que sa durée tient sur un tout petit objet. C'est donc la même chose, et presque à l'identique, que la course automobile, la photographie. Hein? On se suit bien. Bon, c'est logique ce que je dis quand même. Alors, à la même époque, cet oncle-là commence à... C'est un des grands drames dans ma vie. Commence à travailler un peu à la bibliothèque municipale, l'autre côté de la rue, à peu près. Tout est l'autre côté de la rue. Hein, comme je dis. Tout est l'autre côté de la rue, il y a des heures, ça. Et donc, je vais le rejoindre assez souvent là, de la chambre en base de la bibliothèque. Et là, il y a un vieux bonhomme qui est à la bibliothèque municipale du coin, où il y a deux rayonnages, c'est presque rien.
Et c'est un monsieur avec une grosse barbe qui s'appelle Léon, qui est un peu étrange, et que je commence à apprécier, à connaître et tout. Et ce monsieur, Léon Tolstoï, est très... j'ai jamais vu quelqu'un écrire sur mon village comme ça, en fait. Hein. Il fait des descriptions, par exemple, dans La Karénine ou dans d'autres livres. Il fait des descriptions de la chasse au canard que j'ai dû faire toute ma vie. C'est exactement ce qui se passe dans mon village. C'est pareil. C'est la même chose. Hein. C'est un super écrivain québécois, en fait. Et donc, je me rends compte que c'est possible d'être chez nous en étant ailleurs et ailleurs chez nous en même temps, vice versa. C'est vraiment... Et donc, ça devient très, très important pour moi, ce personnage de Tolstoï, parce que je découvre toutes sortes de choses dans Yasnaya Poyana, qui sont son village, où sa famille est installée pendant longtemps. Alors, je finis par voir tous ces personnages-là qui sont un peu, j'ai l'impression, dans mon propre village, d'une façon ou d'une autre. Et c'est à partir de ce moment-là que je dis, bon, il faudrait aller voir ailleurs aussi. Et en allant voir ailleurs, pour moi, il y a une seule façon possible. Je ne peux pas conduire, je suis trop jeune, mon père, de toute façon, ne m'achèterait jamais de voiture. Et donc, le vélo devient très, 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 très important pour moi. Physiquement, aujourd'hui, c'est devenu un espace de réflexion pour moi qui est très, très important. Le vélo, partir en vélo, pour moi, c'est beaucoup penser. Mais à ce moment-là, c'est aussi beaucoup fuir, d'aller voir ailleurs. Je suis capable, à vélo, d'aller à Sherbrooke facilement, à ce moment-là, revenir, aller voir d'autres personnes. Et je suis tout seul pendant des heures. Donc, je peux faire toutes sortes de choses. Je peux arrêter, je peux voir des choses que personne ne voit. En allant plus lentement dans des espaces où les gens vont très vite, on peut souvent voir des choses que les autres personnes ne voient pas. Et c'est encore un peu ce que je fais aujourd'hui, ou en tout cas que j'essaie de faire. Je vais donner quelques exemples, peut-être, je sais pas, mais il y a deux ou trois semaines, par exemple, je me suis retrouvé à la conférence de presse où le premier ministre rendait compte d'une volonté du gouvernement du Québec d'essayer de réagir à la triste situation qu'il fait aux femmes d'Albuquerque. Mais bon, c'était enveloppé dans un discours tout gouvernemental que vous connaissez, on a un peu de mal à saisir, je lui pose quelques questions, puis ça devient un peu mal à l'aise, et moi aussi, parce que il sait bien qu'au fond, je pense qu'il dit n'importe quoi, et il sait bien que je sais que, bon, c'est une espèce de jeu de politesse bien établi, où on s'attend dans les rôles qui sont propres à chaque personne, que l'un va rendre compte de l'autre, et que je pose une question, il va me répondre autre chose, mais de façon à trouver ça intéressant, bon. Pour moi, je suis pas vraiment ailleurs, mais tout d'un coup, mon attention est plutôt sur sa cravate. Et donc, sa cravate est bleue, et il y a des feuilles de lys dessus. Et il me semble que tout s'éclaire par sa cravate, ça m'appelle. Et j'ai pas l'impression de délirer complètement, puisque le premier ministre du Québec, donc, incarne cette idée de fleurs de lys bleues, avec le doré et tout, et donc lui, le voyant incarner cette idée de chef d'État, en plus avec ce symbole sur lui, je me dis, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole? Et en parlant, il me semble que j'éclaire plus la conférence de presse que si j'avais seulement raconté ce qu'il avait dit à ce moment-là. Ce qui m'empêche pas de dire ce qu'il a dit. Mais vous savez, ce que vous lisez de moi, c'est ce qui est probablement de moins journaliste. Hein. La chronique est l'antithèse du journalisme, d'une certaine façon. C'est l'opinion. Et elle est valorisée maintenant beaucoup dans les journaux parce que le jeu est devenu surdimensionné. Vous voyez, la presse, depuis quelques années, par exemple, le journal La Presse s'entend, non pas La Presse en général, ne fait sa publicité qu'en moussant des personnalités qui ont l'impression de devenir immensément importantes, comme la plupart des journaux du monde. Ils ont l'impression de devenir très, très grandes. Alors que leur identité est liée à juste à un phénomène d'époque. C'est qu'on a besoin d'idée d'avoir une pièce, c'est un produit comme un autre. Il y avait beaucoup moins de ce genre de choses-là dans les journaux il y a plusieurs années. Ce qui m'amuse assez, par exemple, c'est que... vous connaissez Jules Fournier? Oui. Toi, oui. Qui d'autre? Deux, ça fait deux. 3. Oui, mais ça compte pas, je pense.
J'en ai parlé.
Moi, quand j'étais étudiant ici, je ne sais plus trop où on est parce qu'on a beaucoup bougé, puis tout est en construction, puis tout est cassé, mais j'étais à l'autre côté en sciences po, en sociaux, puis à un moment donné, je marche. Puis Fernand Dumont me croise, que je connais un peu, puis il me dit, c'est vous qui avez écrit tel truc? Je dis oui, vous êtes un peu baveux. Hein? Puis, je ne sais pas comment je vais parler, vous avez du temps là? Il me dit oui. Il est venu à mon bureau. Ah, souvent, t'avais vu, mais moi, je suis pas étudiant en socio, hein. Ah, c'était un peu inquiétant, quand même. Ça s'avance plutôt mal. Mais asseyez-vous. Oui, bon, ok. Alors, il me dit, vous connaissez, Jules Fournier? Je dis, non. Il dit, vous prenez ça, lisez ça, puis vous venez me le reporter. Et, l'autre m'explique un peu qui c'est un journaliste, effectivement, un peu baveux, du début du 20e siècle. Qui est pas mon préféré aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'est quand même Fernand Dumont qui me le fait découvrir, et il se trouve que le prix de journalisme aujourd'hui, un des plus prisés, s'appelle le prix Jules Fournier. Alors, je suis absolument certain que quiconque écrirait un article qui ressemble à un article de Jules Fournier aujourd'hui, d'abord, ne serait pas publié, et deuxièmement, n'aurait absolument aucune chance de remporter ce prix. Aucune. Hein, c'est quelqu'un qui, donc, parlant de son geôlier, à la Cour de Québec, il dit, on dit de mon geôlier, Monsieur Morin, qu'il est un peu gros. C'est tout à fait faux. J'en ai vu de bien plus gros à la ferme expérimentale de la province. Donc, il parle d'un bœuf, il parle d'un espèce de monde. Ah, c'est des trucs qui sont passibles de libelles, même à l'époque. Je pense que c'est le juge François Surveiller hein, qui le poursuit, et son frère aussi, etc. Donc, même à l'époque, ça relève du libelle. Aujourd'hui, c'est absolument certain que ça ne paraîtrait pas. Donc, la vraie identité du jeu, là, si vous voulez, très forte, c'est plutôt de ce genre-là. Aujourd'hui, les gens qui sont choisis là, pour écrire des chroniques, au fond, ils sont déjà choisis par leur journal, ils n'en font pas l'identité, on est tous les héritiers de quelque chose d'autre. Si on est là, c'est parce qu'on a été choisi, donc parce qu'on ressemble à un système qui est déjà en place, qu'on perpétue d'une façon ou d'une autre. Alors, moi, probablement que je joue le rôle de bonne conscience de gauche pour le devoir ou quelque chose comme ça, c'est probable. Donc, je dois être à placer dans cette lignée-là. Il ne faut pas se raconter d'histoire, là. Si j'ai été choisi là, c'est parce que non seulement je menace pas le journal, mais que j'en perpétue en partie, quelque part, en tout cas, l'existence d'une façon ou d'une autre, avec des tensions que ça peut supposer, bien sûr, mais... Il n'y a pas personne qui se retrouve là, à la presse ou ailleurs, qui est complètement un ovni, là. Il est choisi, il est démarré, ils vont pas choisir quelqu'un à la place d'André Pratt, qui tout d'un coup, ce serait une sorte d'André Laurando, disons. C'est pas possible. La structure, donc, engendre son propre développement. C'est pour ça que Machiavel, hein, dans les écrits de Machiavel, il parle tout le temps du moment fondateur comme étant le plus important hein, dans un système politique, parce que c'est donc l'idée de la constitution, soit d'une entreprise, d'une formule politique, engendre sa succession. Vous, au fond, là, vous apprend à donner de dociles futurs profs bien structurés, et vous y saurez jusqu'où vous pouvez aller, ou jusqu'où vous ne pouvez pas aller aussi. Si vous décidez d'aller plus loin, mais au moins vous saurez pourquoi. C'est le fondement de l'éducation. Au fond, c'est d'avoir un cadre qu'on est en mesure de casser ou pas. Mais au moins, même quand vous le cassez, vous savez qu'il est là. C'est la perspective. Alors, est-ce que c'est utile socialement, les journaux ou la pensée Kahneman, tu sais, il n'y a pas toujours eu des journaux. Au fond, en gros, là, c'est une idée qui évolue à partir de la Révolution française, en bonne partie. Puis bon, il y a des gens qui sont extraordinaires, que j'aime lire de cette époque-là, de Voltaire à l'essai de la Bretonne, disons. Mais l'humanité existait avant. Hein. Là, les journaux sont dans une situation un peu impossible. Beaucoup ferment. Beaucoup vont fermer encore aussi, je pense. Il n'est pas interdit de penser que ça va exister encore. Tu sais, quand je suis rentré en bas ce matin, tout à l'heure, là, ma grande déception, c'était de voir que vous aviez une espèce de centre de reprographie juste en bas, qui était auparavant, qui était à la librairie. C'est-à-dire que moi, quand j'étais ici, c'était pas mille ans, c'est ça? Je pensais pas ça. Donc, quand on avait fini les cours, on allait bouquiner, on achetait des livres et tout. Alors là, vous avez plus ça. Hein, il faut aller plus loin. C'est déjà la place de la littérature ou de l'univers de l'écrit, faiblit autour de nous de façon générale dans des petits signes, mais qui ne trompent pas quand même. C'est devenu moins librairie. Québec, c'est une grande ville de bouquinistes avant. Vous en avez encore pas mal, mais il y en a moins qu'il y en avait aussi. La place fléchit de façon générale. Et il n'est pas sûr aussi que on puisse écrire de sorte qu'on change quelque chose. Hein. Si on apprend ça assez rapidement, je suis pas du tout du défaitisme ou quoi que ce soit comme ça, c'est pas ça, je suis plutôt joyeux, tout va bien. Mais pendant très longtemps, par exemple, quand vous pratiquiez la satire ou une forme d'espèce d'humour un peu morbant, c'est l'âme du pauvre aussi, hein, vous essayez de mordre avec l'esprit des mots qui vous restent et tout, mais est-ce que ça vous permet de changer les choses comme les journaux satiriques que moi j'aime tant ont pu penser pouvoir le faire? Ben, des fois je me dis que non, je me dis un peu plus non que oui, parce qu'au fond vous coagulez autour de vous des gens qui ont une certaine confiance en ce que vous dites, qui partagent votre univers de pensée, et d'une certaine façon, par vos mots, vous les dédouanez de leur responsabilité, dans une forme de rire ou de ricanerie de complaisance, d'une certaine façon. Hein. Les gens vont beaucoup dire le lundi matin, vont dire, ah oui, c'est vraiment vrai ce que tu dis, c'est très bien. Hein. Mais c'est une espèce de façon aussi de s'en remettre au texte qui le texte incarnerait une espèce de forme de pensée complète et ça suffirait, donc ça entretient une forme de presque de cliché sur le monde qui nous entoure, hein. Parce qu'il est facile de concevoir que le système politique est tordu, il est relativement facile de croire que le système est corrompu. Alors le dire, même illégalement, même en pointant des choses vraies, même en insistant sur des faits qui sont vrais, ça tient parfois à encourager des idées reçues, même si vous ne voulez pas faire ça. Et j'ai l'impression que beaucoup de journaux qui étaient parmi les plus mordants en sont arrivés à faire ça malgré eux avec l'époque qui est devenue une époque de grand ricanement. Hein. Vous n'avez pas moyen d'avoir une émission à la radio maintenant ou à la télé sans que le rire soit un véhicule absolument jugé absolument nécessaire pour traduire quelque chose. Pas que j'aime pas rire, hein, au contraire, j'aime ça beaucoup. Si vous voulez prendre un petit pot avec nous après, ça va. Mais il y a ça comme trait général de notre époque qui est un peu troublant. Si vous avez une émission littéraire, alors il sera forcément question de rire. Et puis de le faire vite de préférence. Tout ce qui dépassera 11 ou 12 minutes sera jugé anormalement long. Ce qui est assez étrange parce que si vous êtes au Canada anglais, par exemple, si vous avez une émission comme Prime, vous pourrez avoir quelqu'un qui vous parle pendant une heure et tout apparaîtra au contraire assez normal. Et si vous écoutez NPR, je ne sais pas si ça arrive à Québec, mais on l'attrape assez bien à Montréal, puis dans les cantons de l'Est où je viens aussi, c'est l'équivalent de Radio-Canada, de la radio de vos impôts. Là, vous avez des émissions comme Radiolab, par exemple, où vous avez des formes narratives qui sont très, très éclatées sur la radio, qui sont très, très en avance sur ce que nous, on peut entendre de notre propre radio. Pendant une heure, vous avez un sujet. Pendant deux heures, vous avez le même sujet encore. Puis ça va, les gens sont capables d'écouter un développement sensé. Mais quand on est toujours dans une suite de flashs qui doit mener ou qui conduit avec ricanement, supposément à une pensée, évidemment, tout finit par s'annuler, me semble-t-il. Et c'est peut-être, au fond, le drame, j'ai été assez proche à une certaine époque de Charlie Hebdo, que vous connaissez le destin tragique, et j'étais encore assez ami avec le directeur, qui s'appelait Charles, assez beaucoup, même. Et quand il a été tué, je me suis retrouvé à regarder les derniers trucs qu'on avait échangés, puis une de ses dernières lettres, c'était finis bien ton chalet, ou enfin quelque chose comme ça, finis bien la maison en bois rond, parce que dès que Charlie se plante, j'arrive. Et ça allait très bien, en fait, hein. Donc on était passé d'un journal qui roulait à... en 99 ou en 98, qui faisait plus de 100 000 exemplaires, à moins de 40 000. Donc en fait, ce qui l'a rehaussé tout d'un coup, le journal, de façon très temporaire, c'est un massacre. Mais, règle générale, tout cet esprit-là, à part pour le Canard enchaîné, où ça demeure assez fort, donc l'espèce de presse, vraiment satirique s'est effondré. Et il y a une espèce de ricanement généralisé qui a pris la place de tout ça. C'est-à-dire que la satire qui était vraiment dangereuse, celle de Swift, celle de grands penseurs satiriques qui venaient surtout du monde anglo-saxon, du monde anglais, pendant très longtemps, a un peu disparu, et ça en était peut-être les derniers bastions. Et tout ça, c'est ça. Je sais pas si vous voyez un peu le... Alors, moi, comment je travaille, je vous le disais, je fais combien de temps que je parle trop, hein?
Non.
Oui.
Ça va? Ça fait 45 minutes, ça va?
C'est bon? Oui. Bon.
Le temps pleinement. Okay. Je fais 6 heures, je pense. S'il faut.
Ouais. Alors, moi, comment je travaille, c'est ça, je vous expliquais la cravate, c'est souvent dans des détails, souvent dans des petites choses, et j'écris tout en même temps, moi. Ça vous intéresse ou quoi, ça?
Oui. Ouais.
J'écris plus comme quelqu'un qui sculpterait, sans doute. C'est-à-dire que je me retrouve dans une espèce de grande matière où je crois discerner quelque chose. Et je cherche dans la matière à dégager ce que je vois. Donc j'écris la fin, le milieu en même temps, d'une certaine façon. Pas formellement, mais c'est comme si tout était déjà là. Je vois une espèce de bloc, dans le cas de la cravate, par exemple, ce que je vois, c'est un cochon. Parce que la monarchie française, quand elle s'impose la fleur de lys, c'est à cause d'un cochon. Vous connaissez cette histoire ou pas? Bon. Vous savez pas d'où ça vient, la fleur de lys? C'est de base, hein, quand même, comme truc québécois. Je pense que c'est... pas dire de conneries, mais je pense que c'est Philippe VI ou Philippe VII, quand on est en 1197, puis pas encore là. C'est le roi héritier. À ce moment-là, vous pouvez avoir deux rois qui sont concomitants. Hein. Vous pouvez avoir le père et le fils. Ils sont tous les deux rois au même titre. D'ailleurs, ils sont pas toujours sacrés au même endroit. Ils peuvent être sacrés dans plusieurs endroits différents. Hein. Donc, dans une église de France qui, à ce moment-là, se fait valoir comme étant le centre de la royauté, mais le centre est partout, quoi. C'est intéressant déjà le centre, mais c'est surtout pas Paris, c'est un centre qui est multiple. Et le roi, dans cette époque où on juge les animaux, vous savez qu'il y a des grands procès d'animaux au Moyen-Âge, hein, où on va vraiment tenir des procès contre des bêtes et tout ça, les condamner de façon très très formelle, c'est pas un jeu. Et ce roi-là, en revenant, on sait pas très bien de quoi, soit une partie de chasse, une amusade avec des amis, se fait renverser par un cochon. Le cochon est un animal qui, de très longue date, a la mauvaise presse. Hein. C'est pas pour rien, dans certaines religions, il est complètement écarté. Mais c'est aussi un animal terrible. Il y a plusieurs cas dans les annales, à cette époque-là, qui rendent compte de bébés qui ont été mangés vivants par des cochons, par exemple, parce que les cochons ont la charge de nettoyer les rues. Hein. Mais ça mange tout, les cochons. C'est le truc que ça mange à peu près pas, pour en avoir déjà eu. C'est l'ail ou les oignons pour leur jeter, puis c'est pas toujours ça, mais ça, curieusement, ils ont pas l'air d'aimer trop ça. Moi non plus, d'ailleurs, ils ont un fond de cochon. Il semble d'ailleurs que l'anatomie, on est plus proche du cochon par notre anatomie en bonne partie que du singe, contrairement à ce qu'on parle. Donc, c'est pour ça qu'on peut, par exemple, greffer, je pense que c'est des pancréas de cochon qu'on utilise pour les humains. Donc, il y a là, historiquement, en tout cas, une figure assez intéressante, le cochon. Donc, se faire renverser par un cochon. Il se fait renverser, le roi se fait renverser par un cochon, de son cheval, de sa belle monture royale. Il tombe, il se fracasse les os, et il meurt. Alors, pour tous les narrateurs de l'époque, c'est une catastrophe inouïe. Parce que c'est pas seulement le roi qui meurt, C'est le roi qui est tué par un cochon. Donc, et à cette époque-là, vous pouvez, maintenant, si, si toi, ou toi, ton père, ou ton oncle, ou ton cousin a fait quelque chose, il arrive très régulièrement qu'on va zigouiller 40, 50, 60 personnes de la famille, parce que vous êtes tous tributaires du sang de votre famille. Alors, voir la tête de la monarchie tuée par un cochon, c'est la déchéance la plus absolue qui puisse toucher un royaume. Et la royauté qui avait toujours été drapée de pourpre à cette époque-là, et ça sera la seule monarchie à l'époque à faire ça, va tout d'un coup s'habiller de bleu, s'habiller de l'azur, parce que on en appelle à la Vierge Marie, qui est donc la Vierge du ciel, la Vierge du bleu, et la fleur de lys, c'est ça aussi, c'est le symbole de la reine. Donc pour chasser le cochon, on en appelle à une figure divine qui est celle de Marie. Je vous épargne les détails, mais les principaux conseillers du roi, les deux principaux conseillers du roi sont de fervents dévots de la Vierge Marie. Et donc en l'invoquant à l'intérieur même du pouvoir royal, on va réussir, on espère, à chasser cet affront du cochon qui va disparaître d'à peu près toutes les narrations de l'histoire pour en effacer la souillure. Mais c'est à partir de ce moment-là, alors qu'on a la fleur de lys et le bleu, et le bleu de la fleur de lys québécois vient, en fait, de ça, d'un cochon. Ah, et donc, c'est ça que je vois, moi, dans la cravate du premier ministre. C'est pas complètement faux. Il y a ce symbole-là qui traîne, qui est derrière, qui est celle de la force du pouvoir, qui s'incarne dans des symboles, même quand on les porte et qu'on sait plus ce que ça peut vouloir dire. Ça incarne quand même quelque chose de profond. Des fois, il y a des choses comme ça donc, qui m'attachent à un détail, puis j'essaie d'en chercher du sens. Donc, c'est vraiment un jeu personnel. Quand j'étais étudiant ici, il y avait un professeur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Carole Levasseur, qui est mort prématurément jeune. Carole Levasseur était à ce moment-là lié à une fille avec qui on était tous amis. Il y avait une énorme différence d'âge entre eux deux. Et visiblement, c'était le couple le mieux assorti au monde. Hein, vraiment, il n'avait que l'âge qu'il avait pas. Visiblement, ça allait très très bien. Elle était avec lui jusqu'à sa mort. Et tout. Et c'est que très tardivement que j'ai découvert, donc, que ce Levasseur-là, que j'aimais bien, que j'avais beaucoup apprécié comme prof, avait été collègue de classe avec mon père. Et je pouvais pas voir de lien potentiel et visible avec mon père, sinon que je trouvais dans les archives de mon père, qui lui aussi est décédé, des photos d'eux ensemble. Je voyais rien. Et après, je me sens que toi, tu avais vu mon livre, évidemment. Et en fait, ça me fatiguait, ça, ce truc-là. C'était un problème à régler, un soir, peu de temps après la mort de Levasseur, j'essayais d'éclairer celle de mon père, mort lui aussi d'un cancer. Je regardais quelques vieilles photos de ses années au collège, et tombais alors sur des portraits de classe où l'on distinguait aisément parmi les jeunes têtes celles de Carole Levasseur. Ils avaient étudié ensemble, bien qu'ils fussent très différents l'un de l'autre. Qu'est-ce qui de mon père, me suis-je demandé, avait pu me conduire jusqu'à son ancien compagnon de classe. Il y a peut-être une mémoire inconsciente qui rejaillit par bonds sur nous, qui revient par des détours insoupçonnés, scellés un jour notre vie, dans la sédimentation d'une mémoire commune. C'était ça que je cherchais. C'est quoi qui fait... peut-être qu'il y a des choses qui, de l'un à l'autre, nous unissent dans des détails, que ça soit la cravate, ou que ça soit la photo entre mon père, ou tout ça. C'est ça que j'essaie de faire, c'est pas ça. C'est ça beaucoup que j'essaie de voir dans les projets qui m'animent, en fait, quand j'écris, j'essaie de voir qu'est-ce qui, de l'un à l'autre, nous guide. Adrien Arcand, qui est un fasciste, qui est un personnage assez affreux, hein, quand on y pense bien, avec les idées et tout. C'est Hitler moins l'armée, disons, pour dire les choses un peu simplement. Mais l'automne venu, il adore aller à la chasse. il peint, c'est un mauvais peint, c'est épouvantable, il peint. À l'huile, il adore à le pêcher. Il dit donc, c'est exactement mon grand-père. C'est pareil. C'est le même homme, comme plein d'autres hommes, à l'époque, était mon grand-père, il y avait un arcan. Donc, j'ai en eux l'époque au complet. C'est le sabotier de, comment il s'appelle, c'est le historien, les mois, Pin. Pin. Oui. Ah, c'est, vous connaissez ce, ça?
Explique.
C'est l'histoire de représentation.
Ouais.
Et il prend donc le cas d'un sabotier sur lequel il trouve très très peu d'archives. Je crois qu'il a une condamnation pour avoir mal garé sa charrette, enfin, ou l'équivalent. Et il décide de reconstituer tout le monde de l'époque, je crois que c'est fin du 18e, je suis plus sûre pour la
ouais. époque,
à partir de cette vie, en essayant d'imaginer, en termes de probabilité, ce qu'il a pu connaître, comment il a pu apprendre son métier, enfin, ce genre de choses. C'est vraiment. Enfin, parfois, c'est à la limite de la fiction, parce qu'il imagine des choses, mais c'est vraiment intéressant.
Il imagine des choses, mais il les imagine pas comme Louis Hamelin, disons. Hein? Qui, Louis Hamelin, faisant deux livres sur la crise d'octobre 70, hein, en fait un qui est un livre de pure fiction, où, à mon avis, il a tout à fait le droit, et il en fait un deuxième sur la place de la fiction dans l'histoire. Alors, ben, il n'est pas du tout là-bas. Hein? En faisant son sabotier, il dit, je vais faire l'histoire d'un homme qui est inconnu de tous, mais qui, au fond, le même homme que tous. Hein? Alors, qui est Monsieur Tout-le-Monde? Monsieur Tout-le-Monde est une partie de votre voisin, et une partie de votre famille à vous, et une partie de vous. Et donc, c'est ça qui rend le personnage intéressant. Mais il l'induit pas forcément, il dit pas, il a fait ça à tel moment, il a fait des enfants à tel moment, s'il n'y a pas les archives pour le faire, mais il dit, il est vraisemblable qu'il pensait à peu près ça. Moi, j'ai pas beaucoup de fascination pour la généalogie, par exemple, bien que je convienne tout à fait qu'on peut en tirer des choses très intéressantes. Les généalogies sont très bien. Donc, un enterrement d'un quelconque membre de ma famille un peu éloigné, je me retrouve avec une sœur de mon père qui, depuis des années, fait un travail de généalogie sur sa famille. Et ça ne va jamais, tu sais, jamais, parce qu'il n'y a pas de point d'arriver à son truc. Hein. Savoir qu'un tel est né d'un autre et d'un autre. Aucun espèce d'intérêt. Aucun. Alors, un soir, je me suis amusé en lui disant, bon, ben, de telle année à telle année, ils sont dans tel coin, dans tel coin, c'est parce qu'il se passe ça à ce moment-là et tout. Et donc, on comprend avec les autres plutôt qu'avec soi-même ce qui s'est passé. Donc, c'est ce que j'essaie de faire plus globalement. Et des fois, c'est drôlement plus intéressant de savoir à côté. Mais les gens aiment beaucoup cette espèce d'individualité qui est accordée désormais au temps présent. C'est pour ça que les livres, en tout cas, mes trois principaux livres, c'est un mensonge. Parce que, techniquement, je les accole à la figure d'un personnage en particulier, alors qu'en vérité, c'est pas exactement ça. Pour Gros, c'est l'histoire du mouvement indépendant, tu sais, d'une certaine façon. Hein. Pourquoi ça monte? Théoriquement avec un homme, mais pourquoi le même homme qui change pas tellement porte plus rien à un moment donné? Ah, parce que l'homme il porte rien du tout, c'est l'époque dont il est le fer de lance d'une certaine façon. Arcan, il est tout aussi fasciste, il est tout aussi dangereux dans les années 50, ça tient nettement moins. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rumilier, il en existe plus grand chose, sauf peut-être dans les radios de Québec, où j'ai même entendu, il y a 2 ans, je pense, quelqu'un ressortir l'infiltration gauchiste au Canada français, où on fait des espèces de filiations un peu bizarres, en disant un tel et tel autre, et ceci et cela. Donc, ça induit ça, une vision personnalisée de l'histoire à travers des individus qui seraient de dangereux personnages qu'il faut voir à éliminer, qui nous ramène plus ou moins à quelques degrés près à Pinochet, hein, où il faut éliminer des individus pour éliminer des idées. C'est assez mal comprendre comment fonctionne l'histoire en général. Donc, je sais pas si vous pourriez peut-être me poser des questions, ça m'aiderait, puis on doit en être là à peu près dans
la... C'est parfait. Hein? Non, oui, tu fais une heure, précisément. On ouvre la période des questions. Rediriger leur attaque.
Moi, je vous signale que j'ai passé presque 3 heures pour me dire, vous avez besoin d'avoir une question. Oui.
Est-ce que vous c'est super intéressant,
je sens une liberté quand vous parlez d'écriture, ça devient beau, parce que vous observez tout ça, vous écrivez, ça devient public. Entre les deux, y a-t-il une totale liberté, y a-t-il une censure, ou qu'est-ce qui...
Non, non, je cherche. C'est une bonne question, là. C'est une très bonne question. Est-ce que. Il n'y a rien d'entre vous, je veux pas savoir ce que vous foutez dedans, mais est-ce que vous tenez des carnets ou des journaux des journaux intimes forcément, mais des carnets de notes ou quelques-uns. Moi, j'ai commencé à faire ça très très jeune, moi, en me disant qu'il n'y aurait pas de censure là-dedans et que j'allais tout foutre là-dedans, n'importe quoi. Et quand j'avais au début de la vingtaine, j'avais une amoureuse, c'est le genre d'amoureuse où t'es vraiment aveuglé sur la nature du rapport qui finit avec cette personne-là. Hein. Et moi, je me suis rendu compte qu'elle lisait ça. Et ce qui était pour moi absolument invraisemblable, hein, je veux dire, pas parce qu'il y avait quoi que ce soit de très particulier à cacher, mais pour moi parce que c'était un espace ultimement très privé. C'est une espèce de creuset à toutes sortes d'affaires. Et depuis ça, c'est peut-être le lieu où je me censure le plus curieusement, c'est dans mon intimité. Quand je suis plus avec cette personne-là depuis des années, il rend bien m'en face d'ailleurs. Et curieusement, donc, c'est peut-être sur le registre très intime, où en général, en principe, en tout cas, j'aurais absolument rien à craindre, où je tendance le plus à me censurer. En pensant que peut-être une chose pareille pourrait encore arriver. Qui est complètement ridicule, surtout dans la mesure où je vis seul, hein. Alors, ça devient un peu, ça devient un peu délirant. Mais, donc, en blocage psychologique, ce que je veux dire, c'est que ce rapport à écrire, c'est quelque chose de majeur. Et je pense que pour beaucoup de gens, ce rapport psychologique-là, ils l'ont par rapport à leur travail. Moi, étant arrivé dans un journal, encore une fois, passablement par hasard, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de codes qu'on respecte, et c'est à peu près certain que j'ai des collègues sur qui j'aimerais casser du support. Je vous donnerai pas de nom, mais pour faire un jeu, je pense que vous allez tomber pas trop loin. Et je le fais pas, parce que c'est pas une chose qui est permise par notre rapport. Et je pense que ce soit une bonne chose que ça soit ici. C'est la même chose, par exemple, dans un département, où il y a une règle qui est écrite, je pense, dans ce cas-là, mais qui non écrite serait très bien à faire aussi. C'est-à-dire que il doit y avoir la possibilité d'échanges qui sont là sur place. Mais à part ça, évidemment, moi j'étais très très ami avec un monsieur qui s'appelait Robert Lapalme, que j'adorais, qui était le caricaturiste au Devoir, avec qui il y avait une énorme différence d'âge. Hein, énorme. Mais on s'entendait très 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 bien. Donc on pouvait aller au cinéma ensemble, déjà aller voir un festival de Félix Lechat ensemble, il était haut comme ça, avec sa canne d'argent, un beau mot d'argent, tiré à quatre épingles, et moi, il m'engueulait, j'étais grand comme toi, j'en ai complet taillé sur mesure et tout. Bon. Alors lui, il était impeccable et tout, c'était un monsieur très drôle. Il m'avait raconté dans les années 50 qu'il avait fait des dessins, donc contre Duplessis beaucoup, mais contre d'autres personnages. Et à un moment donné, il y avait une mise en demeure au journal, où on lui disait, on va poursuivre le journal, parce que monsieur, et il est allé voir Gérard Fignon, qui était le directeur, et il avait dit, jamais, jamais, jamais je vais m'excuser pour ça, jamais! Et Fignon lui avait dit, monsieur Lapalme, vous promenez sur la rue. Quelqu'un que vous détestez se trouve devant vous. Et vous transportez une grande échelle sur l'épaule. Une très grande échelle. Et malencontreusement, en vous retournant, vous lui accrochez la tête, et vous lui arrachez une oreille. Vous pouvez bien vous excuser maintenant. Hein? Ah, c'était un peu l'idée que, une fois que t'as frappé, tu peux bien, on se développe aussi une forme de... Moi, j'ai la couenne assez dure, hein, pour ce genre de, ça en prend vraiment beaucoup aussi. Et je me fais pas la violence de lire systématiquement tous les, les courriers ou les commentaires ou tout ça, j'ai vraiment autre chose à faire. Donc je fais attention à moi comme ça. Mais en général, si j'ai vraiment envie de dire quelque chose, je vais le dire. Ce qui ne veut pas dire, et là, ma réponse est très très longue pour cette question, ce qui donne la chance à d'autres d'en parler. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas quelque chose qui puisse ressembler à une censure directe ou indirecte dans un journal. Il en existe une de par le choix même qui est fait de nous comme comme étant les personnes qui allons écrire. Hein. Me choisir, c'est déjà exercer une forme de choix sur ce qui va être dit dans le journal. Alors, bien évidemment, il y a toutes sortes de choses dont je parle pas et je peux me targuer de ne pas être victime de censure, pourtant je n'en parle pas. Oui.
Mais je me demandais justement par rapport à ça, au fait que justement les journaux, c'est un système qui vend des produits, qui choisissent leurs reporters, leurs journalistes comme ça. Bon, je ne sais pas si vous vous sentez assez libre là-dedans, à vous entendre parler, je pense que vous êtes assez libre, mais pour vous, est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, il y a un espace qui est présent pour le débat d'idées sur la place publique en ce moment? De ce que je comprends, de ce que vous dites, c'est que vous trouvez que les journaux sont pas... C'est un espace limité pour ça. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un autre espace?
Ben, je peux juste essayer de comparer, par exemple. Hein. Si on est dans les années 50, où on dit que c'est une société qui est très, très fermée, là-dessus, on parle de l'âme morceur, évidemment, personne n'en fait pas clair. C'est lui de ma tête, puis il faisait pas clair, là. Mais, bon, il y avait toutes sortes de lieux où on se répondait l'un l'autre. Il y avait Notre Temps, qui était un journal plutôt de droite, qui d'un coup publiait Pierre-Éliott Trudeau, au moment où il était en Angleterre, puis il faisait Ville de Voix, puis on renvoyait au journal Vrai de Jean Hébert, puis Cité Libre, puis c'était pas des trucs qui avaient des gros tirages, certainement. Mais il y avait quand même une floraison d'échanges d'idées, et même si les fruits n'étaient pas très gros, la pollinisation n'était pas si mal, en tout cas. Hein? Parce que là, il y avait une circulation d'idées, et il y avait des gens qui se retrouvaient même dans le milieu des arts, ce qui est assez intéressant. Vous imaginez le refus global, par exemple, l'événement est à tout le moins attesté par un onde de choc après coup. Ça existe, très certainement. On en parle, ça existe. Il n'est pas du tout certain qu'un équivalent aujourd'hui, d'abord, pourrait se produire, à mesure où il est peu vraisemblable que vous trouviez une danseuse, un décorateur, des peintres de haut niveau qui tout d'un coup se frayent assez ensemble, qui sont aujourd'hui des milieux qui sont très séparés, pour amorcer quelque chose. Donc, il y a eu une spécialisation du côté de l'expert plutôt que de l'intellectuel. Là. C'est l'expert qui a pris le haut du pavé, et le journalisme est devenu une application de l'expertise. Donc, les gens qu'on invite à la télé vont vous déblatérer tous les pourcentages, tout ce qui s'est passé à la dernière élection, mais le sens de tout ça, le sens humain, comme je disais quand j'ai commencé un peu, est un peu édulcoré à travers tout ça. Et les espaces ont beaucoup diminué. Les lieux de discussion, quand vous pensez à tout le monde en parle, qui est devenu un rendez-vous, ben c'est l'exemple parfait du ricanement dont je vous parlais. Hein? Ou le fait même d'avoir un amuseur qui est par ailleurs très agréable, mais qui renvoie une balle sous forme de quelque chose d'amusant, est propre à désamorcer la discussion, puis à désamorcer le potentiel corrosif ou la capacité qu'on aurait de pousser plus loin ce débat-là. Hein. C'est-à-dire qu'il est placé dans une marmite fermée qui est celle du ricanement. Donc c'est habillé et c'est refermé. Et donc les espaces, il n'y en a pas beaucoup. Tu penses à quoi, toi? Tu dois avoir des idées. Qu'est-ce que tu vois comme espace? C'est la page idée du devoir. Il fut une époque où la page idée du devoir permettait des débats, c'est par exemple, en tête de la presse. Mais là, c'est un débat qui est fermé. Même le devoir a inventé un truc où les gens se répondent. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le débat, je ne sais pas quoi. Où il y a eu une lettre, quelqu'un d'autre envoie une lettre, on publie la lettre en faisant la petite amorce. Et là, c'est le lieu.
Je sais plus comment ça s'appelle. Là,
mais... Idée.
Oui, c'est dans la page idée, mais c'est une espèce de sous-produit.
Un rubrique,
oui,
mais c'est pas long, mais...
Alors, vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que le lieu même devient l'agora définitive de tout. Alors que c'était pas le cas avant. Puis l'espace général du social en français a beaucoup diminué. Quand vous fouillez dans les archives d'Henri Bourassa, par exemple, vous rendez compte qu'il parle à quelqu'un en Colombie-Britannique, puis après ça, un évêque de machin, puis à Rochester, puis il est à Londres, puis il y a un espace global de discussion qui est plus large. On a du mal à envisager ici des débats qui dépassent la limite de Québec ou de Montréal.
J'ai l'impression aussi que justement, c'est des lieux, mais des lieux très restreints, très clos, qui justement ne vont pas vers la, nécessairement sur la place publique. Au moins dans l'université, dans certains journaux très spécialisés.
Oui, ben, évidemment, il y a des choses qui n'intéressent que des débats universitaires. C'est très bien qu'il y ait des revues de plus fermées sur des objets plus précis. C'est une question en histoire du Moyen-Âge. Je suis pas sûr que, le Journal de Montréal soit un bon espace pour discuter de ça, ou le Journal de Québec. Mais dans des questions plus générales, parce que d'intérêt public, d'intérêt commun, je pense que ces lieux-là ont beaucoup diminué. Pour les raisons que j'ai essayé assez maladroitement, peut-être, mais d'esquisser rapidement.
Oui. Il y a un phénomène qu'on voit depuis quelques années de plus en plus, qui est les agences de presse, puis Guy Taillefer, que vous connaissez.
Oui.
Elle disait entre autres que des fois, lui était posté en Inde pour rapporter l'actualité interne. Il disait que des fois, il n'avait même pas le temps de finir sa chronique ou de finir son texte, qu'il y avait déjà une agence de presse qui avait publié l'information sur le même sujet, puis les journaux reprenaient cette information-là. Puis, c'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression qu'entre les différents médias, c'est la même information qui circule, écrite de la même manière, avec les mêmes mots, etc.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, je me demandais si vous aviez cette impression-là aussi, que le discours est de plus en plus aseptisé, unifié, etc.
Ben, c'est très intéressant, ce que Guy, c'est mon voisin de bureau, j'ai un petit bureau, puis lui, il en occupe un devant. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc il était en main pendant très longtemps. Effectivement, ce qu'il dit, là, est applicable à toutes sortes de choses, mais ça tient à une idée qui est plus générale que ça, c'est la vitesse. La vitesse dont je vous parlais avec les autos dans la chambre de mon oncle, là, c'est devenu le nerf de tout. Te faire engueuler quand t'es pas assez vite. Hein. Alors que c'est le contraire de l'écriture ou de la réflexion. Hein. C'est-à-dire, aller vite, c'est le contraire de penser souvent. Alors, il n'y a de bon désormais pour les médias que la capacité à évoquer quelque chose rapidement, signaler que ça a existé. C'est comme si l'histoire était un courant continu. Et maintenant, c'est pas un courant continu. On présente toujours une ligne du temps comme étant, donc, il s'est passé ça en telle année, puis telle autre, tout ça, comme s'il y avait un bout de bois qui se déplaçait sur une lumière. Mais c'est pas sûr que ça soit composé comme ça, le temps. Hein. Mais l'espace-temps est en expansion, le monde est en expansion, donc il peut y avoir plusieurs choses en même temps, d'une certaine façon. Et le passé est quelque chose qui est aussi présent. Mais ça, on le voit de moins en moins avec cette espèce d'idée de rapidité de l'information. Alors, rapidité de l'information, c'est pas tant de l'information dont il est question, c'est du débit. Hein? C'est l'eau qui coule. C'est pas ce qu'il y a dans l'eau, c'est pas ce que charrie l'eau, c'est le courant lui-même. Alors, le déplacement s'est fait non pas sur ce qui est navigable sur cet espace-là, mais sur ce qui est projeté par le courant, de façon générale. Fait que c'est ça, l'information web, là. Nous, avec la même équipe qu'on avait auparavant, on fait maintenant de l'information en continu. Donc, il y a moins de gens qui sont là pour faire, essayer de mettre les choses en perspective ou essayer de creuser les trucs, mais plus de gens qui sont là pour rendre compte. OK, il est arrivé ça. OK, il est arrivé ça. OK, il est arrivé ça. Tu rentres chez toi le soir, pis quand quelqu'un te demande, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, ben, tu te dis, j'ai suivi le courant, d'une certaine façon. Mais donc, t'as rien fait. T'as juste suivi le courant. Et t'as l'impression, parce que ton métier, c'est journaliste, que tu l'as précédé. Hein. C'est pas du tout le cas. Hein. C'est le système de... comment ça s'appelle? Les coqs sur les toits.
Les girouettes.
Les girouettes. Hein. La girouette, on a l'impression qu'elle... Elle indique le sens du vent, mais elle fait juste le suivre. Hein? Allez-y, la suite.
Une chronique comme la tienne s'inscrit où dans l'économie générale de ce monde de la presse? Comment est-ce que tu avais une sorte de, je dirais pas d'alibi, mais de, comment tu vois ta place dans cette chronique-là, toi?
Ah ben, moi, ils m'ont donné ça parce que je leur produis beaucoup de clics, puis que vous m'invitez.
Et bêtement. Hein? Selon toi, ça tient à ça?
Je pense que fondamentalement, si je faisais la même chose puis que ça vendait pas, je l'aurais pas deux semaines.
Et ça vend?
Ça vend beaucoup. Alors, j'ai beau dire tout ça, mais je peux naïf quand même.
Non, mais il y a quand même des plumes qui finissent par se démarquer, des pensées, ça peut se
cynique. Non, c'est pas cynique, c'est juste, je suis conséquent avec ce que je dis. Ça, je dis pas que c'est sans valeur, que c'est sans intérêt, que la pensée mérite pas d'être discutée, que ce que j'énonce, je travaille en pure perte. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais ça obéit à un système général. C'est de la même façon, par exemple, où la maison Fayard, achète Matran, achète qui est un groupe de presse pendant très longtemps, mais qui publie aussi des livres, notamment Fayard et tout ça. Il publie toutes sortes de choses. Il publie notamment, depuis des années, il publie comment ça s'appelle le truc qui est lié au monde diplomatique là.
Oui, c'est pas découverte, non?
Ouais, aussi, enfin. Mais, donc, il publie une collection de livres qui sont voués, donc, à la lutte contre le capitalisme, tout ce que vous voulez imaginer, là, dans cette collection-là, ou à peu près, là, c'est con, parce que mais en même temps, leur activité, c'est de publier des missiles. C'est pas de publier des missiles, mais c'est de fabriquer des missiles. Achète Matras, c'est un fabricant d'armes. Alors, il publie ça, et des armes en même temps. La beauté de ce système, c'est de pouvoir se nourrir de même ce qu'il combat. Hein? Ça, c'est la force du capitalisme. Je suis pas en train de dire que ça, ce que je fais a pas de rapport, mais le système est tellement fort qu'il profite même de ses contradictions. C'est beau quand même.
On est dans les
demi-civilisés. Les demi-civilisés, moi, vous êtes obligé à lire ça?
Moi, je l'ai fait.
Ouais, j'en sors dans lui. C'est un personnage un peu...
Un journaliste.
Ça va pour ce bout-là, mais c'est quand même, à la fin de sa vie, pour moi, un effroyable trou de cul, quand même, Jean-Charles Henry.
Ouais, il y en a.
C'est-à-dire que quand on s'attend à cette période-là, là, on le trouve grand et tout, mais c'est là. On peut être grand à un moment et moins intéressant sur d'autres périodes de sa vie, hein. Tout est à mettre en contexte. C'est-à-dire, il n'est grand que dans la mesure, à ce moment-là, où il affronte le clergé, puis Monseigneur Villeneuve, qui va bénir des tanks pendant la Seconde Guerre mondiale, tu sais. Mais, au moment où, dans les années 50, il se met à écrire des trucs contre tout ce qui est un peu de progressiste, il devient aussi pire que ce qu'il condamnait dans les années 30. Donc, il y a un déplacement des spectres, hein. À un moment donné, tout est pas... Tu sais, la gauche, dans les années 50, nous apparaîtrait probablement bien triste par moment ici. Puis la droite aussi, ça varie beaucoup. Donc, c'est pas les choses sont pas figées dans le temps, définitivement. Voilà.
Oui. Mais dans la question du temps dont on parlait, le quotidien est dans un flou, évidemment... continuellement alimenté, mais c'est là aussi que l'éditorial ou des sections qui reviennent de manière hebdomadaire, comme la vôtre, comme celle, par exemple, je prends d'abord Lise Payet qui écrit chaque vendredi, ou José Blanchette chaque vendredi aussi, ouais. Des espaces qui sont figés, effectivement, selon une périodicité particulière, toutes les semaines, permettent aussi, malgré tout, un temps d'arrêt, un temps de pause, un temps de rétrospection et de prospection sur l'actualité, et donc sur ce même flot. Et c'est peut-être là que naît une sorte de pensée, et parfois dans certaines... chronique ou certains éditos, que naît l'intellectuel aussi.
Oui, je te remercie de vouloir le croire. En tout cas, c'est vrai, c'est gentil, mais dans le fait, formellement, tu vois, cette semaine, j'ai fait une entrevue, j'ai publié un texte avec un monsieur qui avait une histoire du sourire en Angleterre. J'ai fait un truc sur le centenaire du Thériault. J'ai fait un long texte de 8000 signes à peu près pour expliquer l'histoire du. Histoire de mouvement de migration en Amérique du Nord. Je fais une analyse sur le rapport mardi ou mercredi. Je fais une longue analyse, très longue, sur le rapport de la commission machin, là.
L'histoire des bains.
Pardon?
L'histoire des bains à Montréal.
Non, enfin, tout tour d'affaires. Et donc, par-dessus tout ça, je rajoute la chronique qui est disponible à la... Ah, il faut quand même pas... si j'ai écrit dimanche à midi, hein. C'est pas un si long temps de réflexion que ça, hein. C'est un moment parmi d'autres. Donc, ça a la forme d'une réflexion plus longue. En pratique, sa réalisation relève presque du même type que les autres. C'est la forme qui laisse à croire autre chose, mais en pratique, son mode de réalisation est assez similaire aux autres. Encore une fois, je ne suis pas en train de me regarder et de me faire acquérir. J'essaie juste de mettre les choses dans leur réalité. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à... Comme tantôt, j'ai amorcé de parler un peu de Louis Aubry, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un grand, grand romancier, je pense. Et puis là, qui s'est aventuré sur la crise d'octobre et qui a fait un livre qui est un essai, c'est un livre sur la place de la fiction dans l'histoire, où il induit beaucoup de choses avec la lecture des journaux, puis tu te dis, mais mon pauvre Louis, c'est quelle mauvaise connaissance du milieu que t'es là. Tu sais, un tel a dit que la fenêtre c'était à gauche, puis l'autre a dit que c'était à droite, alors qu'au même moment, quelqu'un disait que c'était plutôt au centre. Tu dis, mais oui, mais faut pas les conditions de réalisation de ça. Ils sont pas dans la pureté angélique de tout. Tu peux pas laisser croire que, par ces détails-là, quelqu'un forcément ment, et que forcément quelqu'un a quelque chose à cacher, tu sais. Ça va très vite. Donc, reconstruire à partir de ça après, c'est vraiment la chronique, c'est un truc quasi du quotidien, ou bien qu'elle soit là, mentionnée, une fois par semaine ou tout ça, mais ça relève de l'espace de la construction mentale, l'espace de construction mentale qui est quotidien. Ça s'attache presque toujours, dans tous les cas que tu as nommés, en plus, à des trucs d'actualité. Moi, je fonctionne selon les arrivages du marché. Hein? La petite soupe du jour, la salade d'accompagnement, là, c'est avec ce que me fournit les arrivages du marchand de nouvelles, hein? Qu'est-ce qui est arrivé. Bon, ben, cette semaine, moi, il y a le gros monsieur de la Banque des Dés qui gagne 7,1 millions par année, qui dit, hélas, c'est des gens qui sont trop instruits. Ah, ben, c'est ça, bon, c'est un truc de la semaine, ça. Alors, je ramène à quelque chose de plus large, mais c'est arrivé là. Alors, j'aurais pas pu, moi, ou j'aurais pu parce que je fais des pirouettes, là, mais en général, on peut pas, le cochon et le 12e siècle, pas trop souvent.
En même temps, c'est ça, par ta perspective historique, tu peux, justement. C'est une part. La même manière que la chronique de Buy, à une certaine époque, part d'un sujet complètement inutile, par exemple, ou complètement, je sais pas, la mouche qui le dérange pendant qu'il écrit, il peut partir sur complètement autre chose.
Ah oui, au 19e siècle, c'est mon écrivain québécois préféré. De très très loin, j'avais même réussi à trouver chez un vieux marchand, qui fermait une boutique quand j'étais tout jeune, les numéros de la lanterne, les vrais, ce que j'ai. Que j'ai collectionné et ramassé précieusement. Je ne dis pas tous les 27, mais j'en ai un certain nombre. Alors, en étant tout seul, je suis seul dans un coin avec le diable qui est lié à ce fameux homme. Il est tout seul, c'est probablement le seul qui a raison. Il est le seul à aller se battre contre les oies pontificaux, alors que Montréal au complet fait un triomphe, hein, 300 ou 400 pauvres malheureux. Qui sont des fous de Dieu, littéralement, qui se sont fait coincer sans connaître la langue, qu'on a promené comme des bourriques dans Rome vaincus, qui sont d'affreux vaincus, qu'on célèbre comme des héros de l'or qui rentrent à Montréal. Ça, c'est profondément triste. Le seul vainqueur est resté seul à crever dans son coin, ou à peu près. Et les oeufs sont portés en triomphe. On n'est pas mieux maintenant qu'on pouvait l'être au 19e siècle. C'est un peu la même chose. Il y a des gens qui vont mourir tout seuls aussi, dont on va voir la lumière seulement sur la tombe, probablement, s'ils n'écrivent pas dans des journaux, forcément.
Le couac, là-dedans, parce que tu dis d'ailleurs dans l'essai, dans un peu de sort à la guerre, que c'était inspiré notamment de la lanterne. En tout cas, il y avait une volonté semblable.
Ouais.
Comment tu en parlais un peu?
D'abord, je regrette que ça soit pas mort. Ce volatile, bon, encore des ailes, j'aurais dû l'achever à coup de pioche pour être sûr qu'il se relève pas, parce que c'est vraiment l'ombre de ce que ça a pu avoir été les deux ou trois années où on s'en est occupé. Tu sais, moi, j'avais réuni, mon idée, c'était de faire une courte pointe de gens qui éprouvaient des sensibilités que je trouvais qui étaient pas parfaitement compatibles, une courte pointe, vous voyez ce que c'est, des fois, c'est des morceaux de tissu qui s'en vont vraiment pas ensemble, mais tout ensemble, ça finit par former quelque chose qui est pas mal. Tu peux avoir, en passant de Pierre Perdeau à Gilles Archambault, en passant par Louis Hamelin, Pierre Boncoeur était là dans chaque numéro. Alors, il y avait des grandes différences d'âge, des sensibilités qui étaient parfois un peu écartelées, mais tout tenait quand même assez bien. On avait du plaisir à faire ça. Oui, donc l'exemple de Puy était pour moi assez important, comme la presse satirique au 19e siècle. Il y a eu beaucoup de journaux satiriques en 1887. Le Canard, là, qui est fondé à Montréal par Victor Berthelot, tu sais, c'est bien longtemps avant le Canard de Jeanne-Maréchal et son mari, le Canard enchaîné qui existe toujours, qui va fêter son centenaire trois fois dans les trois prochaines années, puisque il y a un premier numéro, je pense, qui paraît en 1915, puis il s'arrête, un autre en 17, puis un autre en 19, donc ils ont prévu trois centenaires, ils sont pas cons, hein. Et donc il y avait un peu de cet esprit-là où l'idée de la plume, l'idée d'écrire était quelque chose d'important aussi. Tu sais, l'idée pas juste de communiquer, ce qui beaucoup de journalistes maintenant, avant ils venaient de littérature, ils venaient d'histoire, ils venaient beaucoup du droit, les journalistes. Maintenant ils viennent essentiellement d'écoles de journalistes qui sont des écoles de contenant plus que de contenu, puis des gens qui sont spécialisés pour faire des livres, qui écrivent des textes comme des entonnoirs, parce que c'est comme ça qu'on leur a montré à faire un texte. Donc, tu pars du plus important, ce qu'on appelle le lead, puis tu descends avec les faits qui sont moins importants. Donc, s'il manque de place, le pupitreur, sans te lire, peut couper les lignes par la fin. Tout ce qui enlève ne changera rien au sens du texte. Alors, moi, je fais exactement le contraire. Tu sais, je m'arrange pour que ça soit tellement tricoté que si tu enlèves un mot, tout s'effondre. On n'est pas trop nombreux à faire ça. Tu sais, bien Cormier fait ça pour la critique de musique, eux, c'est un peu là-dedans aussi, mais... C'est l'ancienne façon, pas mal, tu sais, ça rend pas service tellement à quelqu'un qui veut mettre en page. Donc, essentiellement, les formats aujourd'hui sont presque des formats radio. Les gens veulent pas vraiment savoir. Puis mes collègues, j'aime vraiment beaucoup, là, hein, c'est pas, je pense pas du sucre sur mon dos, là, je suis en famille, je passe beaucoup d'heures dans une année, avec eux, mais pour beaucoup, leur fonction, c'est de déterminer une longueur. C'est ton texte, peu importe son contenu, il va avoir 6000 signes, espace compris. Tu dis, oui, mais c'est vraiment bon parce que, nanana. Mais le contenant n'a pas d'importance, c'est le contenu, c'est le contraire. Et donc, non, c'est 6000 signes, peu importe ce que tu as. C'est la même chose pour l'imposition de format à la radio. Ça prend 8 minutes, toutes les lumières rouges s'allument. C'est juste que, l'auditeur, il pourra plus tenir ça. Alors que si on lit, par exemple, le journal Le Monde, qui a quand même beaucoup changé, le journal Le Monde a une typographie, la lettre qui est utilisée, c'est une lettre qui a été faite spécialement pour Le Monde, par un fondeur, un typographe, comme il en existe encore rarement dans le monde, qui s'appelle M. Porcher, donc ça me ramène au cochon. Et M. Porcher a fait une lettre qui contient vraiment, vraiment beaucoup de textes. Alors, vous avez l'impression de lire un petit texte dans Le Monde, si vous le en produisez l'extrait, puis vous le mettez dans Word, par exemple, vous verrez qu'il est en général deux fois plus long que ce qu'on trouve dans la presse normalement. Tu sais. Donc, un texte normal dans Le Monde, c'est 11 000, 12 000 signes. Un texte long dans Le Devoir, c'est 6 000, 7 000 signes. Donc, c'est un 40% de moins. Donc, dans la presse québécoise, le texte le plus long, et son référent français en langue française, donc plus intellectuel, c'est 40% de moins. Ben, mine de rien, 40% de moins pour certains textes, c'est de l'information en moins aussi, là. Ça tient à la capacité d'avoir plus de papier pour publier. Ça tient aussi à la typo, comme vous expliquiez, qui est celle du devoir est plus grosse, donc on loge moins de textes dedans. Puis on a l'impression que la dématérialisation de tout ça, un passage sur le web va régler ce problème-là. Alors c'est complètement faux, hein. Ça risque plutôt de l'aggraver dans les faits. Parce que là, on est en train de produire une nouvelle génération de lecteurs. D'abord, les gens s'illusionnent complètement en disant « Oui, tout le monde a pensé à la tablette. Combien d'entre vous avez des tablettes? » Ouais, vous n'êtes pas très nombreux, hein. Pourtant, vous êtes tous aux études supérieures. En fait, c'est les gens plus âgés, 50 ans et plus, qui ont des tablettes. Et ça coûte cher, ce truc-là, hein. Donc, tout le monde lit sur le téléphone. Vous avez essayé déjà de lire des articles sur le téléphone, il faut être courageux, hein. Donc, ça entretient plutôt le culte de la forme très, très courte, de la photo qui prédomine sur le texte. Donc, ça encourage le dépassement de l'univers du texte vers un autre univers sensible. Et surtout, on entre dans un univers de repères qui est celui de l'Amazon. Bon, j'imagine que vous achetez sur Amazon des fois. Il faut pas timide, je vous juge pas, je veux juste vous condamner. Mais enfin, vous voyez un peu le système, hein. C'est-à-dire que quand vous choisissez un livre ou un disque ou tout ça, la fois d'après, quand vous arrivez, vous dites « Les gens qui ont acheté ceci ont beaucoup aimé cela. Ceci, ceci. » Et c'est pas con, hein. Souvent, tu sais, « Ah ben oui, regarde-moi ça, c'est pas mal. » Puis la fois d'après, il connaît encore mieux, hein. Puis là, c'est même rendu tellement bien que la pub, si tu nettoies pas tes cookies dans ton ordinateur, finit par te remplir toutes sortes de trucs que t'aimes. Et là, tu deviens dans un univers où tout est confortable. Le monde entier s'est modelé à tes intérêts, hein. Les livres, les disques, tout baigne parfaitement dans l'huile. Alors, c'est un peu la même chose qui risque d'arriver maintenant dans l'information. C'est-à-dire que vous choisissez ce que vous allez lire, puis éventuellement, on va vous renvoyer ce que vous aimez lire aussi. Donc, vous allez être dans un univers d'informations de complaisance. C'est ça vers quoi s'achemine de plus en plus cet univers du numérique. Parce que vous n'allez pas nettoyer vos cookies à chaque fois, c'est pas vrai. Vous allez faire tous vos mots de passe, puis c'est chiant, puis éventuellement, vous finissez par baigner là-dedans, puis au fond, on aime assez ça, parce que c'est des trucs qui sont bien, on est confortable là-dedans. Alors, quand vous aviez une presse écrite, davantage, qui circulait, tu disais, oh, regardons ça. Hein? Et bon, là, tu lis un truc à côté qui t'intéresse pas, mais tu finis par avoir... Et là, le temps, on nous a tellement inculqué que le temps manquait, pourtant les journées ne sont pas plus courtes, il y a encore 24 heures. On nous a tellement inculqué que ça va vite, ça va tellement plus vite, qu'on manque tellement de temps. J'ai jamais cessé d'entendre qu'on manquait de temps, mais c'est parce que tu choisis d'employer à quelque chose plutôt qu'à autre chose. Et à ce moment-là, donc de plus en plus, ce système-là roule, et effectivement, ben, ça nous éloigne un peu du texte, de la littérature, de la volonté de communiquer par l'écrit, certainement. T'avais une question, hein, je t'avais pas oublié.
Oui.
Je me demande, est-ce que vous seriez
la pratique de
Gérald Godin?
De qui, pardon? Gérald Godin. Godin? Oui, c'est aussi comme lecteur journaliste.
Et je veux le situer où?
Ben, je sais pas, parce que je l'ai vu, vous dire, est-ce que ça se peut un journaliste intellectuel?
Ouais, bon, mais évidemment, je caricature un peu, là, tu sais, moi, je suis pas con, hein, je sais que je représente techniquement un intellectuel de service pour plusieurs choses. Et ce que je dis, c'est que fondamentalement, un journal, ça conduit pas à ça. En tout cas, encore moins aujourd'hui que par le passé. C'est sûr que quand Godin était, entre autres choses, à Québec Presse, ou je sais pas quoi, c'était un journal qui se définissait d'abord comme un journal de combat. Et c'était pas toujours glorieux, là, les articles qu'il y avait là-dedans. Ça brillait pas toujours, ni par un équilibre, ni par un point de vue de neutralité qui soit défendable. Il y avait des fois des enquêtes complètement abracadabrantes, d'autres trucs nettement plus intéressants. Et c'était un journal qui était dans la mouvance post-année 60, une forme d'engagement, où même Jacques Parizeau, qui tenait chronique dans le jour, à un moment donné, où tout ça était accusé de par même sa condition de bourgeois, de ne pas pouvoir écrire là-dessus. On est dans un autre système de pensée. Alors, ben oui, pour son temps, il est sûrement lié à ça, mais tu sais, c'est encore une figure qui est pas très... c'est la bonne personne pour répondre à ça, c'est lui, c'est pas moi, mais c'est encore une figure qui est à cheval sur plusieurs mondes en même temps, tu sais. Poète, qui est très près des artistes, Il y a des amitiés très très fortes qui sont pas celles du journalisme fondamentalement ailleurs, là, mais son monde est aussi ailleurs. C'est Trois-Rivières aussi, puis c'est des rapports au monde qui sont pas ceux d'un éditorialiste de la presse, donc. Donc ça varie. Je fais ça un peu rondement, mais j'ai dit aussi que tout est pas noir et tout est pas gris.
C'est sûr que l'autonomisation dont tu parlais tantôt, des différentes sphères, ben, ça fait en sorte qu'un homme comme Godin, ça devient plus difficile aujourd'hui. Hein, il n'y a pas le même espace.
Non, puis c'est... Ça oblige aussi à camoufler, ça l'obligerait probablement à camoufler une partie de ce qu'il est. Tu sais.
En politique, on l'a vu, on en a discuté avec Godin, tu l'as un peu deviné. On voyait bien qu'en politique, c'est plus tout les mêmes choses que dans Parti pris. Là. À un moment donné, il faut ménager la chèvre et le chou. Là. Et c'est ça, c'est un rôle de politique. C'est pas celui d'intellectuel, puis ça crée une distorsion.
Je me souviens de Miron en 95, avant le référendum, il y avait Hélène Monnette qui avait organisé une soirée de poésie. Tu sais, quelques mois avant le référendum, puis Miron était en maudit, tu sais, une soirée. C'est une soirée de poésie. C'est pas le temps de faire de la poésie, de parler aux gens qui sont déjà convaincus, on a autre chose. Mais bon, c'est quand même un poète, hein. C'est, bon, il est pas vraiment contre la littérature non plus. Mais puis, il y a des moments où il dit, bon, là, c'est un autre niveau de discours, hein. Il faut tenir autre chose en même temps. Donc, il peut être plusieurs choses, mais pas toujours en même temps non plus. Hein. Il décide à un moment d'être ça. Plutôt qu'autre chose. Alors, Godin, moi, je l'ai plus connu, Godin, mais je me souviens une fois, j'étais allé à la télé avec lui, puis c'était au moment où Claude Morin, on avait appris que Claude Morin travaillait pour la GRC. Puis là, il avait été opéré au cerveau, il avait l'air de lobotomiser, il avait l'air de Frankenstein. Tu sais, il avait un peu de difficulté d'élocution. C'était à Radio-Québec à l'époque, qui était non pas Télé-Québec, puis il avait quand même du mal à s'exprimer, quand même pas mal. Puis il était là, contre un mur dans un corridor, il vargeait sur le mur. Il était furieux, puis il n'arrivait pas à le dire. Tu sais. Alors c'était... Excusez-moi le voisin. Et à s'en défoncer le poing, hein, vraiment. Alors, pour moi, c'était une image très, très forte de ce personnage-là que je voyais assez souvent parce qu'il y avait une maison dans les cantons de l'Est où on prenait l'autobus en même temps ou à peu près, donc on se parlait et tout. Mais tu vois, je voyais un caractère très bouillant qui n'était pas celui de juste des mots, ça dépassait amplement la représentation et ça me plaisait assez. Ça. Et ça, je me suis toujours senti plus proche de ce type de tempérament que le tempérament lisse qui te dit oui, M. Trudeau doit absolument compter son. Bon, merci. Alors, j'aimais plus ces personnalités plus rugueuses. Ouais.
Je sais pas si je m'exprime bien, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait dire qu'une figure va se diversifier en fonction du deuxième dans lequel elle va écrire? C'est par rapport à la figure de l'intellectuel. Au sens où quelqu'un peut prendre la position de l'intellectuel quand il écrit un livre, et aussitôt qu'il se rend dans le journal, ben là, finalement, ça va être autre chose.
Ouais, tu vois, quelqu'un jouera avec quelqu'un d'autre pendant que l'autre sera en vacances? Ben, ça se peut, mais ça fait jamais des trucs très intéressants. J'imagine qu'on peut poser à être quelque chose, qu'on peut s'imaginer, mais d'une part, j'imagine que cette personne-là va finir par être assez malheureuse. On a déjà dans nos vies, vous devez déjà vous rendre compte, on est tous à un moment donné ou à un autre pris avec cette espèce de syndrome de l'imposteur, là, tu sais, tu dis, oh, ben, c'est ça. Je suis vraiment à ma place. Moi, je veux vous parler, là. Ah, s'il faut en rajouter en plus, ça devient des codes de psychanalyse, il me semble. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés par l'idée de jouer à Tintin. Là, tu sais, Tintin, c'est un journaliste qui n'a jamais écrit un article, mais visible, très visible. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent heureux là-dedans. Il y a plein de stagiaires qui viennent en disant, ben, Oui, moi, ce que je veux faire plus tard, c'est écrire des chroniques. Tu disais, assis-toi, tu dis, pourquoi tu n'as pas compris? Parce que c'est une possibilité d'écrire des chroniques qui sont assez faibles. Une possibilité de faire du chien écrasé, c'est beaucoup plus élevé. Chien écrasé, en vivant toutes sortes de choses, mais c'est plutôt ça. Donc, ben, oui, ça se peut sûrement jouer, hein, mais à quelle fin, à quel but? Tu fais un plaisir à ton père et à ta mère? Épater ta blonde? Je sais pas si ça te tente pas, si t'es vraiment pas comme ça, t'es pas comme ça, tu sais, je me suis rendu compte à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai plein d'amis qui sont vieux, tu sais, puis là, ça tombe bien, ils sont presque tous morts, mais là, c'est pas, j'ai des amis plus jeunes, tu sais, je vois aucune différence entre, je sais pas, parler avec Gilles Archambault, avec qui je parlais la semaine dernière, puis Olivier Lanto qui est venu me voir, c'est le même truc à des différences d'âge plus ou moins importantes, mais ils jouent pas à être quelque chose, là, ils sont ça, puis tu leur parles, puis s'ils te plaisent, ils te plaisent, s'ils te plaisent pas, c'est pareil, mais je pense pas qu'ils posent. Je pense pas que je suis tout seul. Ça me fait un semblant de sens, mais je voulais mal compris ta question.
Je pense que c'est. Je pense que ça va mieux, là. Mais en fait, ce que je me demandais, c'est que je me disais peut-être que la personne peut être intrinsèquement considérée comme un intellectuel, en un sens, puis éventuellement prendre essayer de rendre une idée plus accessible, puis d'aller dans le joint, c'est de masse, oui. Ben, c'est quelque chose de genre.
Et beaucoup, par exemple, qui va être au Journal de Montréal, est-ce que.
Ouais, ou, voilà, Moiron, peut-être, hein, pour prendre un exemple plus. Plus élevé, peut-être que Bongo, qui était fondamentalement c'est quelqu'un de très populaire, Bongo. Bongo, c'était pas. C'est Bongo, il se faisait un malin plaisir à inviter Lise Payette avec son plâtrier. Donc, il aimait beaucoup mélanger des trucs. Mais fondamentalement, c'est quelqu'un qui était très proche de tout le monde. Donc, il était assez sympathique. Donc, il faisait pas d'efforts, je pense, pour aller. Sous le Journal de Montréal, tout ça, il était comme ça aussi. Mmh. Il était vraiment comme ça. Dans le cas de Raymond Aron, par exemple, c'est un peu autre chose. Raymond Aron, c'est professeur aux hautes études, mais, donc il est journaliste aux hautes études, puis il est professeur dans le journal, au Figaro, en l'occurrence. Donc c'est un peu beaucoup ça. Donc il traîne deux places en même temps. Lui, il le fait assez bien. Il y en a chez qui ça réussit peut-être moins, c'est comme, je sais pas, Bourdieu, par exemple, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, c'est très Collège de France, hein, puis il écrit vachement bien, mais des fois, faut que tu te lèves de bonne heure pour être sûr. Donc, même quand il redescend pour expliquer des choses, quand il dit, bon, faire brûler des voitures dans la rue, oui, mais pas pour n'importe quelle raison, tu sais. Souvent, c'est pas hyper clair, tu sais, il faut quand même,
pas les bonnes raisons.
Il faut quand même travailler, plus le texte ou tout ça, ou c'est la, ça peut être la, je sais pas, Foucault, c'est la même chose, tu sais, c'est Foucault qui s'en va en même temps que Sartre, ou à peu près. Ah, c'est pas toujours limpide non plus. C'est, donc, c'est pas donné à tout le monde, je pense, de redescendre. Le cas de Bongo étant, vraiment une figure d'exception, mais de chez nous, là, je ne sais pas s'il y en a un autre du même genre. Mais alors, tout ce que je veux dire, c'est qu'aucun de ces gars-là joue, là, ou femme, là. Les exemples sont tous morts, hein, c'est pas chaud. Ouais, c'est
joli. Peut-être, oui.
Ah, oui.
J'ai remarqué que dans vos textes, dans un peu de sang avant la guerre, puis notamment dans vos chroniques aussi, en général, vous employez vraiment un mode narratif, je trouve, proche du conte. Vous racontez. Ben, puis d'ailleurs, tout à l'heure, ça a été un bon exemple, vous nous avez raconté plein d'histoires par rapport à votre passé, par rapport à vos gens, etc. Je me demandais si l'écriture de fiction, c'est quelque chose qui vous intéressait, parce que, du moins, vous avez une certaine plume pour ça.
C'est quoi la plume pour ça?
vous racontez, puis on... C'est facile de s'accrocher au récit. On n'a pas l'impression de lire justement du journalisme, des faits, des chiffres, puis ça emballe le lecteur d'une certaine façon.
L'effet narratif est solide.
Oui, c'est ça.
Ouais, ben, sais, moi, quand je lisais des textes, normalement, dont j'ai parlé, de ça qui nous envoyait à Pitagawa quand on s'énervait trop, là, qui avait d'ailleurs toutes sortes d'expressions assez formidables en français, là. Elle disait, par exemple, mon sang dans ta rame, je l'attrape à petit chenille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si tu me demandais, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On mange des artamans à moitié dans le sang. Plus tard, j'ai cherché, hein, ma grand-mère, là, c'est en ligne directe avec une très très vieille phrase du Moyen-Âge, hein. Santaram, c'est du latin mélangé avec du vieux français, c'est vraiment Santaram, Saint-Honneur. Mon Saint-Honneur, si t'arrêtes pas, rapatichonner, c'est un vieux verbe français, je vais te ramasser, je vais te remettre à ta place, hein. Les artamans, hein, c'est aussi dans la place, donc c'est une déformation avec le temps, c'est artamant, ortonant. Ortonnant, c'est l'oiseau de la royauté, qui est interdit de chasse aujourd'hui. François Mitterrand adorait manger, encore, même si c'était interdit. Et la menace, c'est le commerce triangulaire avec les guerriers. C'est le mets le plus ultra qu'on peut avoir ici dans les colonies. Alors, c'est l'oiseau de la royauté, avec la fine fleur de ce qu'on peut avoir comme ça. Donc, il y avait beaucoup de Français très vieux. Alors, moi, et dans la parole de ma grand-mère, mais aussi dans les textes, là, tu sais, ma grand-mère, je l'ai lu pendant des années, lire Don Quichotte. Dans l'édition de Marabout, brune, avec les dessins, je pense que c'est Daumier qui a fait les dessins. Donc, ben, tu sais, moi, j'ai la même édition. À chaque page, je relis des bouts de ça, puis au hasard, ou de plusieurs textes, puis j'essaye de voir qu'est-ce qui fait que ma lecture est soutenue, indépendamment du sujet. Quand j'étais éditeur, il y avait plein de gens qui téléphonaient, qui disaient « J'ai une histoire formidable à raconter. » C'est vraiment bien. Est-ce que je pourrais vous en parler? Je vous dis non. Écrivez-la. Vous me l'enverrez après. Je me dis, mais... Je dis, oui, mais je voudrais savoir si je vais travailler pour rien. J'en sais rien, moi, si je vais travailler pour rien ou pas. Je dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet. Non, on en parlait de dos. Il se passe rien. Et, je me souviens, quand Beckett écrit à son éditeur, aux éditions de Millier, en disant, vous êtes le seul à l'avoir accepté. Je ne veux pas vous faire perdre trop d'argent. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment le publier, tu sais, évidemment, c'est ça qui a fait vivre les éditions de Mimi pendant des années, hein, c'est réédité constamment. Il ne se passe rien dans ce qu'ils ont lu là, hein. Rien, c'est l'absolu rien, là. Alors, c'est l'écriture qui tient tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait que tu tiens dans un texte ou pas dans un autre? Alors, moi, quand je lis quelque chose, j'essaie de voir comment la phrase est balancée. Moi, j'ai pas appris, je dis pas ça de façon, c'est pas une forme de vantardise déguisée sous une négation, mais j'ai pas appris à écrire, je veux dire. Au primaire, je pense pas que j'ai eu un seul prof qui a réussi à me faire comprendre comment les compléments de vie directe fonctionnaient. Puis au primaire, j'étais victime, pas au primaire, mais en première année secondaire, j'étais victime, quand j'avais plutôt dans une nouvelle école, d'une nouvelle tentative de programme où on apprenait à écrire au son, en crochet, sous prétexte que si on savait pas prononcer le mot, comme ça, au moins, on pourrait savoir comment ils disent, c'est ma langue maternelle, ben, je sais comment prononcer le mot, je sais bien qu'à la radio, on entend encore automne, automnal, et sculpture, que moi-même, je reproduis à l'occasion parce qu'on généralement, on sait comment prononcer les mots, donc on a plutôt savoir besoin de comment, en plomberie, ça fonctionne, tout ça. Alors, à défaut de ça, tu sais, je me suis mis à essayer de lire quand j'étais ici, à l'université, j'étais tombé sur des vieux numéros de Cité Libre chez Denis Néron, qui est encore libraire, qui a déménagé, qui est au coin de quartier. Là. C'est la librairie où à l'entrée, c'est écrit « Lire, fait pousser les cheveux ».
Sur
René Lévesque, c'est ça, près de quartier. Néron, qui avait fait un bon recueil de poésie, hein, qui s'appelle « L'intelligence des fleurs à l'Hexagone », qui est un monsieur complètement éclaté, mais qui a beaucoup vu. Et il y avait des numéros de Cité Libre, j'étais tombé sur un texte de Pierre à bon cœur, puis sa première phrase, je sais plus c'est dans quel texte, toi tu dois le savoir, c'est « Notre jeunesse est venue de l'ordre. » Oh, ça m'avait coupé les jambes, et puis deux bras étaient tombés aussi, j'ai dit « Ah, ben c'est exactement ça, tu sais. » Puis là, tu sais, tu te dis « t'embarques dans une phrase, il vient te fixer le cadre. » Je dis « Bon, ben, comment c'est fait, ça? » Puis ben, à bon cœur, à ce moment-là, ben, je l'avais écrit, donc, c'est un texte des années 50. Moi, je lui écrivais, genre, 40 ans plus tard, puis il me répondait en disant que son texte des années 50 était formidable, tu sais. Et, Et donc, c'est ce mouvement-là des mots, ben, tu le trouves en lisant, en voyant comment c'est fait. Puis moi, je fais pas de la fiction. Tu sais, je veux avoir une base d'écrivain, là, ça me fait plaisir, ce que tu dis, mais tu sais, je n'induis pas de la fiction comme Louis Hamelin peut le faire, par exemple, sur la crise d'octobre. Je pourrais probablement raconter quelque chose avec un procédé narratif qui mènerait peut-être à rien. Mais moi, je veux que ça soit vérifié. Tu sais, je veux au moins, je n'attribue pas la vérité ou l'histoire avec un grand H, mais je veux que la version que je donne, elle existe quelque part. Tu sais. Alors, la fiction, j'en ai jamais fait, en tout cas, pas consciemment, en tout cas, mais je veux bien croire que parfois ça ressemble un peu à des contes, mais c'est une façon d'entrer dans quelque chose qui relève pour moi du réel. Et c'est sûr que quand j'entre dans la forêt en arrière de chez nous, puis que ça scintille, ben c'est sûr que quand je le décris, c'est déjà mal parlé. Écrire, c'est pas décrire, comme peindre, c'est pas dépeindre non plus. Hein. C'est là, alors j'essaie de dire ce qui est là, donc évidemment pour quelqu'un d'autre qui le lit, ça s'apparente à forcément un procédé, à une forme d'écriture. C'est mieux que je peux faire pour toi.
Il y aurait le temps pour une dernière question.
Et je sens que la main est
allée. À moins qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas posé de
question. Ben, au pire, on parle en deux.
Ah bon, je pense que la parole a été donnée. Merci.
Il y a une note sur votre page qui a impliqué ma curiosité dans Sans la guerre, mais c'était pour la chronique Tous pour un, dans lequel vous critiquez une bonne partie des quotidiens régionaux puis de la presse. Quand il y a eu le rachat des quotidiens régionaux de la presse, page 120, vous dites le texte refusé par tous les quotidiens québécois, y compris Le Devoir.
Mm-hmm.
Puis j'étais curieux de savoir si c'était tabou, dans le fond, aujourd'hui, de critiquer les médias.
Ben, à ce moment-là, ce qui était en... Vous l'avez vu, ce texte-là, ou pendant...
Oui, on l'a vu.
Ils l'ont tous vu. Après, ils sont supposés.
Ça, en gros, c'était extraordinaire. Faut qu'il y ait le plus grand mouvement de concentration. Puis tous les journaux qui parlent de ça ne laissent entendre que, au lendemain, que c'est une chose formidable. C'est pas possible, ça. Je peux pas. Tout le monde, ça se peut pas que la réalité soit perceptible de la même façon pour tout le monde, tu sais. Et dans ce cas-là, c'est très clairement ça. Puis Le Devoir, qui était le seul journal indépendant, l'avait pas publié. Moi, j'étais pas au Devoir à ce moment-là. Ça aurait probablement rien changé, parce que Le Devoir avait été très mièvre aussi sur cette critique-là, par rapport à ce qu'elle avait pu faire par le passé, Claude Ryan, par exemple, ou d'autres personnes, pour des objets qui étaient beaucoup moins importants pour temps de concentration. C'est-à-dire que quand tu es dans une maison de verre, tu garoches pas trop de roches, parce que tu peux recevoir vite, puis ça va éclater. Alors, l'indépendance, c'est bien, hein, mais encore faut-il trouver des moyens de son exercice. Et puis, ben, tu vois, la devise du comment enchaîner a beaucoup de sens. Hein, la liberté de presse ne suffit que si on ne s'en sert pas. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es tu prévois toujours recevoir des coups puis que tu recules, ben, à un moment donné, ta marge de manœuvre s'affaiblit aussi. C'était ça. Ah non. Toi, t'as une question aussi? Qui? Non. Il n'y en avait pas une deuxième qui traînait? Oui.
C'était sur le revenir sur la question des intellectuels. Si la presse est de plus
en plus... C'est ça le sujet, hein.
Je suis désolée. Si la presse est de plus en plus tournée vers des genres marqués par la brièveté.
La presse en général, là?
En tout cas, d'après ce que vous aviez l'air de dire. Quel serait le support des intellectuels, enfin de la parole intellectuelle? Le livre, la revue, autre chose?
Tu sais, en Occident, au 19e siècle, jusqu'au 19e siècle, en tout cas, puis même dans une bonne partie du 20e, on ne parle plus de ça aujourd'hui, mais il y a un livre de Victor Lévi-Beaulieu qui avait été inspiré par Jacques Perron, qui s'appelle « Manuel de la petite littérature ». Il fait la recension d'à peu près toutes sortes de livres qui ont été vendus à des tirages énormes. Genre, l'apparition de la Vierge machin à Marie je sais pas quoi, telle que racontée au curé je sais pas quoi. Ce sont des livres québécois dont vous ne trouverez aucune trace à la bibliothèque ici, de même que bien d'autres livres plus importants. Et Il y en a à la tonne des livres comme ça, qui ont alimenté l'imaginaire. Pendant très très longtemps, là, il y a eu une période d'entre-deux où on allait vénérer, avec un intermédiaire qui était le livre, une figure qui était celle de la religion. On allait sur des tombeaux, on allait faire des pèlerinages. Le Devoir, avec l'agence de voyage, jusque dans les années 40, qui organisait une bonne partie de séjours sur des espaces religieux, en Acadie, en Amérique du Nord. Pendant des années, la Vierge Mohawk, Catherine Tekakwitha, faisait l'objet de pèlerinages de gens qui venaient de New York, qui venaient partout dans le monde, et tout, maintenant encore, il y en a moins. Donc, il y a eu un déplacement du pèlerinage religieux vers le pèlerinage littéraire. On est beaucoup allé en France à partir des années 40, 50 pour aller quasiment se recueillir, n'importe quoi, qui traîne au berceau, puis il lâche au tombeau. Ici, il y a mes cocteaux, là, il est mort, je sais pas qui. Tu vas voir la tombe de Chateaubriand. Tu t'approches. Je pense dans moi, mes souliers, Félix Chetler raconte comment il a volé la lettre F de La Fontaine sur sa tombe. Et donc, tu vois dans un film de l'ONF, à son bureau en train d'écrire avec le F. Moi, je suis allé voir dans les cimetières du Père-Lachaise. Ils l'ont remis, mais c'est bien le même F. Tu sais, ça a été restauré, donc il a vraiment volé le F. Donc, il y a une forme de pèlerinage religieux qui s'est transposé dans le pèlerinage littéraire. Je pourrais donner une suite d'exemples comme ça. Et avec le temps, je pense que ça aussi, ça s'est fatigué comme mode de religion. Je pense que la religion de l'écrit a beaucoup baissé. Je ne sais pas ce qui va advenir, mais il est à peu près certain que personne n'a hurlé en bas quand votre librairie a fermé dans le pavillon ici, qui est pourtant le pavillon où il devrait y avoir le plus de présence de livres naturellement. Le nombre de librairies baisse, le nombre de gadgets vendus dans les librairies augmente. Oui, il y a plus de textes qui circulent, mais globalement, on a encore le même taux d'analphabétisme au Québec, ça veut dire à peu près la moitié de la population. C'est à se demander d'ailleurs si les campagnes d'alphabétisation n'ont pas eu pour fonction dans l'Occident, non pas de rendre un savoir accessible à tous de façon générale, mais d'assumer la transmission d'une autorité générale. Et ceci étant assumé, c'est pas plus grave qu'il y ait un certain nombre de gens qui lisent pas. Qui continue de perdurer dans cette société-là, puisque son pouvoir est bien établi maintenant par l'école, donc par l'écriture qui permet de transmettre l'autorité à des gens qui se reproduisent un jour. M'accuser de primer. Non. et donc, je sais pas quelle forme ça peut avoir. Est-ce que tout ça va finir dans des monastères comme au Moyen-Âge où on va transcrire patiemment les textes d'Aristote qu'on va redécouvrir quelques centaines d'années plus tard. Je suis pas dans cette perspective-là non plus, mais il est certain qu'on est dans une période, je pense, plus de rétrécissement que d'expansion. C'est d'autant plus important d'essayer de la maintenir et de la faire vivre dans des espaces qui sont très fragiles par rapport à ce qu'on a pu avoir. Tu sais, le devoir, je pense tout ça, même pas au devoir, là, donc pause. Le devoir est toujours en crise, toujours en train de quitter de l'argent, en disant oui, c'est un espace important. Moi, je pense que c'est un espace important aussi, mais quand on prend la mesure de l'importance de ça, on se rend compte, en fait, qu'on est dans une digue qui a beaucoup, beaucoup cédé. Si tu prends le même paysage médiatique global vers 1920, le nombre de lieux du même type est infiniment supérieur. Bien sûr, il y a la télévision, bien sûr, il y a toutes sortes de d'autres canaux de diffusion. On a quand même établi, je pense, en tout cas, là, à travers les lignes, qu'il n'y avait pas beaucoup de lieux dans les médias électroniques au Québec où on pouvait faire valoir une forme de discussion ou de travail qui soit plus intellectuel. Hein. Qu'est-ce que t'en penses?
J'avoue que moi, je
ne
suis pas ici depuis très longtemps,
donc
pour le cas québécois,
Vas-y, ça. C'est bon? Ben, merci beaucoup, Jean-François.
Merci.
Merci à vous. Les étudiants du séminaire, je vais vous donner une petite pause de 5 minutes. Après quoi, je vais vous demander de revenir.